Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Café. C'est le 136e, enregistré le mercredi 26 juin 2019. Et c'est le premier jour des soldes, donc voilà, c'est peut-être pour ça que Guillaume Vendée n'est pas avec nous ce soir, hein, parce que c'est vrai que c'est épuisant de courir tous ces magasins, c'est sûr. Mais bon, heureusement, j'ai avec moi un invité de marque, un vétéran, notre expert qui veut outre-Atlantique, Pierre-Olivier Diebmann. Bienvenue à toi Pierre-Olivier, comment vas-tu ?
Salut ! Ça va très bien et toi ?
Ben oui, ça va très bien aussi. Écoute, on est content d'être là un petit peu tranquille tous les deux, là, hein, parce que c'est vrai que, bon, des fois, c'est bien de se retrouver en tête-à-tête aussi.
Exactement.
Alors, quand est-ce que... C'est quoi les soldes chez toi, d'ailleurs ? Est-ce que vous avez des périodes comme ça, où il y a d'un mois de soldes, ou alors c'est juste des jours comme Black Friday ou autre ?
Non, c'est ça. On a des périodes comme le Vendredi Noir. Mais on n'a pas le concept de soldes en particulier, non.
Ah là là, d'accord, donc c'est ce mois comme ça, fabuleux, bon, je sais pas. À tous les cas, j'espère que vous ferez, vous, auditeurs, de bonnes affaires ce mois de juillet, faire les magasins à la clim, c'est agréable, par cette période caniculaire. Bien sûr, si la porte est fermée, et oui, parce que oui, c'est à nouveau la saison de ma marotte d'été, vous savez, les portes ouvertes malgré la clim. J'en reparlerai en bonus, ne vous inquiétez pas, j'ai été confronté encore une fois à plusieurs occurrences, bien entendu. Bon, en tout cas, si vous faites de bonnes affaires dans les magasins aux portes fermées et que vous économisez de jolies sommes sur vos achats, peut-être, qu'est-ce que vous pourrez faire une petite contribution au Patreon, peut-être, car Tech Café, c'est un podcast indépendant qui est financé par ses auditeurs et chacun peut donner ce qu'il veut à partir de 1$ par épisode. Alors, vous pouvez bien sûr plafonner vos dons, évidemment, arrêter quand vous voulez. Bref, c'est simple, ça se passe sur le Patreon Tech Café. C'est un énorme merci aux 119 patrons qui contribuent déjà. C'est grâce à vous que, semaine après semaine, hein, ce podcast continue d'exister depuis des années maintenant, donc merci à vous tous. Et bon, si les affaires n'étaient pas bonnes, vous pouvez toujours mettre des étoiles sur iTunes ou alors nous noter sur la plateforme que vous utilisez, quelle qu'elle soit. Accroître notre visibilité aussi, c'est un cadeau, hein, que vous pouvez nous faire, alors n'hésitez pas, merci encore pour tout ça, ou même bah, merci juste de votre écoute. Et justement, ce soir, qu'est-ce qui nous attend dans Tech Café ? On va commencer par parler un petit peu de mobilité, de voitures autonomes et électriques. Puis on embrayera ensuite sur une section autour du matériel, donc nouvelles machines, nouveaux composants, motivés aussi par le tout début du MWC Shanghai. Et puis on aura une inévitable section crypto-monnaie, hein, parce que voilà, le secteur bouillonne en ce moment grâce à Facebook et sa future monnaie Libra, et cette Libra ne laisse personne indifférent. Nous conclurons par une rubrique en bref, évidemment deux charmants bonus, un programme chargé, donc si tu es prêt, Pod... peut-être commencer.
Bien sûr, toujours prêt.
Allez, alors sans autre forme de procès, on commence avec cette première section véhicules électriques. Et on commence cette première section avec des petits véhicules, les trottinettes. Elles ont colonisé les grandes villes à une vitesse record. Et ça, un petit peu partout dans le monde, et c'est pas forcément sans problème. Et en particulier, cette semaine, hein, la ville de Nashville a interdit, donc désormais a interdit les véhicules, ces véhicules-là. Après un accident fatal en mai dernier, il y a un homme de 26 ans, assez alcoolisé, qui s'avait renversé par un camion, et bon, ben, il était en tort, mais il en est mort. Donc le maire a envisagé de bannir les trottinettes depuis un mois. Bon, il y a plus de 4000 trottinettes à Nashville, gérées par 7 boîtes différentes. Bon, finalement, ça sera définitif, enfin bon, définitif, jusqu'à ce que les compagnies acceptent de négocier et d'accepter les nouvelles règles. D'ailleurs, seules une ou deux compagnies, finalement, seront probablement à terme admises et à venir sous des règles beaucoup plus strictes. Donc, bon, ça fait largement écho à notre propre situation en France, hein, puisqu'à Paris en particulier, il y a un homme de 25 ans qui est mort dans des circonstances similaires. Le camion avait priorité, d'ailleurs, aussi. Et Anne Hidalgo, à peine à prendre des mesures, évidemment, c'est pas la première victime en France non plus. Il y a une personne âgée qui est morte, percutée par une trottinette, hein, en avril dernier. Alors, bon, bien sûr, on va pas dire qu'on peut pas se faire renverser par un camion, même en marchant à pied, mais bon... C'est sûr que la vitesse élevée des trottinettes, ça accroît tout de même les risques, hein. On en avait déjà parlé, il y a des petits bolides partagés un petit peu partout, et ça sait faire de manière très Silicon Valley, c'est-à-dire on déploie vite et on débug au fur et à mesure. Bon, ouais, une flotte de véhicules, hein, c'est pas comme un service web, évidemment, donc on peut déplorer que le debugging puisse tourner au tragique. Bon, les villes commencent à s'unir pour se défendre, hein, puisqu'aux US, il y a la Open Mobility Foundation, qui regroupe déjà les villes de Austin, Chicago, Los Angeles, Miami, Louisville, Portland, etc., etc. Et puis il y a beaucoup de données intéressantes qui peuvent venir de ces nouveaux moyens de locomotion, puisque Los Angeles a mis au point le MDS, ou Mobility Data Specification, qui permet de connaître sous format anonymisé évidemment, hein, tous les déplacements des trottinettes, voilà, ou autres, éventuellement dans l'avenir. Ce qui permet de savoir à une échelle individuelle vraiment comment les gens se déplacent. Donc il y a déjà 50 villes qui ont accès à ces données, et bon, des questions de vie privée qui se posent, exactement comme pour Google, mais voilà, pour l'instant c'est très chaotique, les villes s'organisent, voilà, les compagnies de partage devront s'adapter aussi, et bon, à terme elles pourront sans doute pas survivre. Je crois savoir que tu es intéressé par le sujet d'ailleurs, toi, Pod, tout ça.
En fait, faut savoir que tu parles des données, ça c'est des choses qui sont imposées par certaines villes, c'est absolument pas quelque chose qui vient par défaut, qui est offert par défaut par les opérateurs de flotte de trottinettes en libre-service, hein. C'est vraiment quelque chose qui est exigé par les villes pour que les entreprises puissent opérer de façon légale, et puis je dis les villes, mais c'est pas toutes les villes. C'est un débat qui est un petit peu sans fin, malheureusement, dans beaucoup de pays. Généralement, un engin de deux roues avec un moteur qui n'est pas un moteur d'assistance, hein, au pédalage, ça prend une immatriculation et une assurance. Là, on est sur des engins qui, en général, ne sont pas immatriculés ni assurés. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Cela dit, il y a aussi beaucoup montage montage en crème, c'est pas une expression qui existe, mais il y a beaucoup de
montage.
On dit
monter un épingle peut-être, ouais.
Ouais, monter un épingle ou battage.
Oui, battage, ouais.
Sur des faits divers, et c'est des circonstances absolument malheureuses, hein, et je veux pas diminuer les accidents qui sont arrivés. Cela dit, voilà, les statistiques d'utilisation des trottinettes, puisqu'on les a dans certaines villes, on se rend bien compte qu'en général, elles font 300 mètres, et que, ben, justement, elles sont pas si utilisées et donc utiles que ça, mais donc aussi qu'elles sont pas si exposées non plus que on a l'impression maintenant que on a tout plein de rapports d'accidents qui nous viennent de partout dans le monde. Cela dit, il faut pas mettre sur le même plan les utilisateurs qui, pour des raisons X ou Y, auraient fait abstraction des règles élémentaires de conduite, et les problèmes qu'il y a pu y avoir aussi sur certains modèles de trottinettes, avec des problèmes de freinage, notamment, qui avaient été rapportés en Nouvelle-Zélande, et qui ont donné lieu au bannissement d'au moins un opérateur de la ville d'Auckland. Voilà, tout n'est pas à mettre sur le même plan. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses dans ce secteur qui bougent. Est-ce que elles sont là pour rester? C'est difficile à dire, mais en tout cas, il faut essayer de garder un minimum la tête froide sur le sujet. Je pense que en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai quand même l'impression que la nuisance sur le trottoir est plus un problème que les réelles règles de circulation. Parce que finalement, voilà, on croise relativement peu d'utilisateurs de trottinettes et sur des très courtes distances. Évidemment, je dis ça sur mon continent nord-américain. J'ai pas mis les pieds dans une ville aussi densément peuplée que Paris depuis longtemps, donc c'est difficile pour moi de me mettre à votre place. Mais en tout cas, vu d'ici, voilà, c'est assez anecdotique, oui. Malgré oui. Les faits divers.
Bah alors ici, bon, moi je peux parler pour Lyon, il y en a vraiment beaucoup, effectivement, il y en a c'est un peu le bordel, mais bon, bah, dans mon quartier ça reste relativement limité quand même, hein, c'est pas aussi catastrophique que ça. Après, tu as raison, il n'y a peut-être pas tant d'accidents que ça, hein, même si chaque accident évidemment est tragique, mais c'est aussi peut-être l'occasion pour les villes de sauter sur un prétexte de se rallier, si tu veux, l'opinion publique et de mettre au pied du mur les entreprises pour faire passer des nouvelles régulations et mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. On a un petit peu cette impression, là, en tout cas.
Mais le truc, c'est que les villes ont certes leur mot à dire sur un certain nombre de règlements municipaux et d'aménagement de voirie, mais les problématiques plus profondes et je pense en particulier à l'assurance. l'assurance qui vient avec l'immatriculation, en tout cas en Amérique du Nord, ça c'est du domaine de l'État ou de la province, là, si on se positionne aux États-Unis et au Canada, ou de l'État avec un grand E, si on se positionne au niveau de la France, c'est pas du tout les villes qui vont pouvoir faire bouger les choses là-dessus. En ce moment, si un utilisateur a un accident sur une trottinette, il n'est pas couvert par sa responsabilité civile.
Ouais, non mais c'est vrai que t'as raison, il y a aussi
Faut...
d'autres types de problèmes. C'est vrai qu'en France, il y a moins cette distinction ville-État. Enfin, clairement, bon, mais c'est vrai que ça dépend beaucoup des pays, tu as raison. Bon, on peut embrayer sur un autre domaine où on aimerait en tout cas pas avoir le même type de déploiement anarchique, hein, c'est certainement celui des voitures autonomes. Les constructeurs le savent bien, d'ailleurs Waymo est très prudent, ce service de taxi autonome à Phoenix tourne plutôt au ralenti. Honnêtement, c'est pas un problème, c'est un problème qui est quand même compliqué, dangereux justement, la conduite autonome, et donc ça me dérange pas qu'ils prennent leur temps. Mais stratégiquement, c'est pas la même chose, évidemment. Tout le monde est sur le coup. Donc, il y a General Motors qui a fait l'acquisition de Cruise, Ford qui avec celle d'Argo, filiale qui a récemment annoncé qu'elle allait investir 15 millions en collaboration de l'université de Carnegie Mellon. Il y a Hyundai aussi qui a investi dans Aurora. Il y a Toyota qui collabore avec Uber, avec qui, bon voilà, avec toutes ces alliances, et ben, tu vois, il était urgent pour Waymo de trouver des partenaires, si possible des équipiers qui lui ouvrent aussi les portes des marchés internationaux. Et on a aussi appris très récemment qu'Apple avait racheté la startup Drive AI. Bon, elle n'avait pas l'air en très grande forme, cette start-up. Elle a eu un solde un petit peu, c'est la période, je suppose. Elle a été évaluée à 200 millions de dollars, mais Apple a dû l'avoir pour moins de 77 millions. Et puis, bon, en fait, c'est surtout un transfert de compétences, hein, puisqu'il y a des dizaines d'ingénieurs qui ont été réembauchés par Apple. Et donc, la semaine dernière, voilà, Waymo a conclu un deal avec Renault, Nissan et Mitsubishi, donc c'est un accord de long terme. Waymo veut étendre son offre de voitures autonomes en Europe et au Japon. Cet accord est idéal, hein, puisque Waymo a déjà des liens avec Fiat Chrysler, qui fournit ses actuels véhicules. Mais Fiat Chrysler a aussi une alliance avec Intel et BMW et même Aurora. Bon, donc ça commence à devenir compliqué, mais tu vois, Pierre-Olivier, il y a quand même des lignes qui se forment dans le secteur, donc là aussi, ça s'organise pas mal.
Ouais, clairement. Moi, personnellement, je vois toujours le même pattern. D'un côté, une technologie ouverte, enfin, pas forcément ouverte dans le sens propriété intellectuelle, hein, mais au moins commercialement, qui est ouverte sur l'industrie et qui pourra être adoptée par différents constructeurs. Et puis de l'autre, on va avoir des technos probablement beaucoup plus comment dire, intégrés, pour dire les choses poliment, et qui ne seront disponibles que pour les éditeurs de cette technologie. Alors évidemment, je regarde du côté d'Apple, même si ils ont a priori beaucoup de retard sur le sujet, mais je regarde aussi beaucoup du côté de Tesla.
Oui, effectivement, Tesla qui ne se mélange pas, puis il fait tout en interne. Et donc, intégration verticale oblige, ça pourrait amener à des choses qui sont plus, peut-être plus efficaces, je sais pas. Enfin, en tous les cas, bon, en tout cas, c'est ce que Tesla a l'air de dire. Ils ont l'air, d'après eux, ils sont très en avant sur tout le monde. Bon, évidemment, on demande à voir, quoi. Il n'y a pas que les voitures dans la vie, il y a aussi les camions, mais oui. Et bien sûr, bah, la conduite autonome, c'est un énorme enjeu pour le secteur routier, hein. Les camions sans chauffeur, sans pause, 24 heures sur 24, t'imagines le rêve de logisticien que ça peut être. Bah, Volvo Trucks nous a présenté Vera, son camion autonome. Alors il faut imaginer que c'est un camion, mais il n'y a pas de partie, il n'y a que la partie motrice. Donc voilà, elle est comme coupée à la hauteur du moteur, donc il n'y a pas de cabine. Donc elle est toute plate en fait. Et voilà, c'est un truc qui est capable de prendre des remorques, hein, de faire la route entre deux centres logistiques, en partie sur des routes publiques d'ailleurs, et de livrer son chargement en totale autonomie. Alors pour l'instant, ça se passe à Gothenburg, en Suède, entre deux points du port de Gothenburg, qui a l'air vraiment très grand. Ça se passe donc sur route fixe. Et c'est la compagnie DFDS qui gère le tout. Et évidemment, Volvo aimerait étendre ce service au-delà du port, hein, forcément dans un futur proche, et remplacer pas mal de routiers. Bon, voilà, donc ce système s'appelle pas Cruise, c'est déjà pris. C'est dommage, j'aurais fait le Vera Cruise, mais bon. Mais bon, dans le futur, en tout cas, le Vera sera peut-être propulsé par des puces Nvidia, des puces Drive, donc, hein, qui seront au centre du système. Voilà encore, c'est un accord de long terme dans les années qui viennent, Nvidia Volvo. non seulement les voitures et les camions pour être autonomes, mais aussi d'autres trucs auxquels on pense moins, comme par exemple les engins de construction, les mines, dans les engins pour les mines, je veux dire, pas les mines, mais les engins qui vont dans les mines, ou l'exploitation des forêts, etc. Donc voilà, c'est même pas encore le début, c'est prometteur, hein, en tout cas.
Bon, sachant que pour les mines et autres activités industrielles, il y a déjà beaucoup de véhicules qui sont pilotés à distance ou qui ont un mode, le terme est pas du tout officiel, hein, me prenez pas au pied de la lettre, un mode grappe, je vais appeler ça, ou un mode à la queue leu-leu, où un véhicule se déplace puis les autres le suivent. Ça c'est déjà des choses qui font partie de l'existant. Donc clairement, passer l'étape de l'autonomie complète, c'est quelque chose qui est à la portée de cette industrie. Hein.
D'accord. Mais donc, il y a des drones pour les mines, c'est quoi? C'est des raisons de sécurité? Parce que il faut quand même un chauffeur, donc je vois pas très bien l'intérêt, sauf si c'est peut-être si c'est dangereux.
Non, là je parle vraiment de véhicules qui sont pilotés à distance, de véhicules routiers.
Mais bon, mais quel intérêt par rapport à avoir un mec dedans? Il faut toujours un mec qui gère le truc?
Y a pas mal de mines qui sont dans le Grand Nord, où il fait moins 40 et où ça coûte beaucoup plus cher.
Ah ouais, okay.
d'équiper Jean-Paul. Il y a aussi dans des endroits où le climat est pas forcément aussi difficile que l'exemple que je viens de choisir, on a aussi des problématiques de sécurité, hein, puisque c'est quand même des engins qui sont énormes, là, qui font la taille d'une baraque, souvent. Donc voilà, les enjeux, ils sont surtout là, c'est de passer du conducteur avec toutes ses certifications de sécurité à quelqu'un qui est un peu plus à l'abri avec une job de bureau.
Oui, d'accord, effectivement, tu as complètement raison, c'est vrai, s'il fait très très froid, c'est sans doute mieux de mettre des mecs dans une chambre, dans une pièce chauffée, c'est beaucoup plus simple. Oui. Et écoute, on continue notre rubrique avec véhicules, donc, hein, avec des accords qui présagent un avenir un petit peu moins casse-pieds avec les voitures électriques que ce qu'on a eu peut-être avec les premières années dans les téléphones mobiles, et même d'ailleurs un petit peu toujours maintenant, les téléphones mobiles, c'est qui s'est pas retrouvé un jour sans pouvoir charger son téléphone parce qu'il a oublié son chargeur? Bon, il fut un temps où les chargeurs étaient tous propriétaires et c'était bien nul. Or, aujourd'hui, pour recharger ta voiture électrique, c'est un peu pareil. Il y a des prises, évidemment, déjà, qui peuvent être différentes. Et puis surtout, il y a les réseaux. Recharger son véhicule à l'extérieur, c'est possible, mais via un prestataire et pas forcément via un autre. Donc c'est comme si tu pouvais aller chez Shell, mais pas chez Esso, donc c'est pas très pratique. Ce qui est encourageant, c'est que il y a des accords d'itinérance, en fait, entre réseaux de distribution électrique qui sont en cours aux États-Unis, hein, entre, par exemple, Electrify America et ChargePoint, ou entre EVgo, ChargePoint et EVconnect. Bon, c'est exactement comme une itinérance sur un réseau téléphonique, mais bon, pour l'instant, il n'y a que trois partenaires. Alors qu'en Europe, il y a une solution qui pourrait s'appeler Upject, c'est une initiative allemande, hein, puisqu'elle est fondée par Daimler, BMW, Volkswagen, Siemens et Bosch. Et elle souhaite de manière transparente pour l'utilisateur créer une véritable interopérabilité de tous les points de charge. Donc c'est une sorte de middleware en fait qui permet aux pros d'implémenter des stations qui soient compatibles. Bon, c'est vrai que les voitures électriques vont aussi bousculer les bonnes stations-service, on n'y pense pas tout de suite, même si c'est peut-être pas, voilà, on n'y pense pas immédiatement, mais ouais, les stations vont devoir changer aussi à terme.
Moi, si j'ai bien compris, l'initiative de Daimler, c'est un nouveau protocole. Et ce qui me gêne un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on mélange l'incompatibilité pour des raisons commerciales versus l'incompatibilité pour des raisons techniques. Parce que la raison pour laquelle ChargePoint est l'un de ses concurrents, dont m'échappe, mais que tu viens de citer tout à l'heure, je vais retrouver ça.
EVgo peut-être.
EVgo, oui, merci. La raison pour laquelle ils sont compatibles en mode itinérance, comme tu dis, eh bien c'est parce qu'ils utilisent le même protocole, qui est un protocole open source, ouvert, chapeauté par l'Open Charge Alliance, puisqu'il s'appelle l'Open Charge, quel nom original, versus la solution de Daimler. De ce que je comprends, justement, voilà, c'est de créer un protocole pour les unir tous. Sauf que voilà, ce protocole, il existe déjà, il est déjà fortement déployé. À vrai dire, à part Tesla, il n'y a pas tant de monde qui ne l'utilise pas déjà. Et donc la raison pour laquelle les bornes ne sont pas intercompatibles, elle est d'origine commerciale plus qu'autre chose.
Ouais, non, tu as tout à fait raison de le souligner, c'est même très intéressant. Cela dit, bon, effectivement, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il va falloir à un moment donné que tous s'unissent et qu'il y ait une manière unique de recharger sa voiture, comme il y a aujourd'hui une manière unique ou enfin d'aller faire le plein, quoi. Sinon, ça va être vraiment enfin, merdier, t'imagines le problème, quoi.
Ah, c'est bien.
c'est l'enfer. Mais bon, écoute, en tout cas, c'est en cours, donc c'est déjà ça. Et puis bon, bah on va finir avec la Chine, hein, qui, comme toujours, va très très grand. Et d'ailleurs, c'est Evergrande, hein, qui est peut-être la plus grosse boîte d'immobilier au monde. Il y a 100 milliards de chiffre d'affaires, donc voilà. Et ils annoncent des investissements massifs dans les voitures électriques. Alors on sait bien que ce sont eux qui maintiennent Faraday Future en vie. Pour 2 milliards, hein, ils ont encore injecté dedans et qu'ils ont quasiment racheté les voitures électriques de Saab. Bon, ce qui concerne Faraday, ça va pas mieux d'ailleurs, hein, puisqu'ils continuent à licencier des dizaines d'employés qui étaient au chômage technique. Bon, le moteur apparemment a du mal à redémarrer. Bon, on ne sait pas si c'est pour ça, mais ils annoncent désormais qu'ils ont racheté les technologies pour produire eux-mêmes. Ils injectent 23 milliards de dollars dans trois usines à Guangzhou. Alors, leur objectif est un peu insensé, puisqu'ils veulent quand même faire 1 million de véhicules par an, et un équivalent de 500 gigawatts de batterie, c'est-à-dire deux fois plus que la Gigafactory d'Elon Musk, quand la Gigafactory d'Elon Musk fonctionnera à plein régime comme Musk l'a annoncé. Parce que pour l'instant, apparemment, on en est loin. Donc voilà, alors Chinese Super Power ou Chinese Super Mégalo, je sais pas exactement ce que t'en penses, mais ça a l'air assez pharaonique.
Ouais, clairement un mélange des deux. Aussi, peut-être que ils ont en vue ils communiquent beaucoup hein, sur les véhicules grand public, mais peut-être que leurs projections commerciales comprennent aussi les bus et autres types de véhicules qui, pour le coup, commencent à se vendre assez bien, surtout d'ailleurs en Chine. Voilà, bah, à voir, hein, mais clairement, bon, c'est sûr que c'est des chiffres qui semblent assez peu crédibles.
Ouais, ça va difficilement tenable. Enfin bon, puisqu'on parle de la Chine, pourquoi pas passer dès maintenant dans notre rubrique matos, notre rubrique hardware, parce que le feuilleton se poursuit. Voilà, voici donc le résumé des épisodes de la semaine. Tu sais, donc Previously on Trade War, le gouvernement américain a appliqué d'autres limitations hein, qui vont encore faire du mal à AMD, Intel et Nvidia, puisqu'elles interdisent aux cinq grosses boîtes du secteur informatique, donc ce sont cinq grosses boîtes qui font des super ordinateurs et des composants pour super ordinateurs. Non, je dis, attends. Non, ils ont interdit donc aux entreprises américaines, donc AMD, Intel et Nvidia, à cinq grosses boîtes chinoises qui fabriquent des supports ordinateurs d'acheter ces composants-là. Donc, alors, les cinq compagnies, c'est Sogon of Beijing et ses affiliés, et il y a aussi Wuxi Xiang. Bon, ok. Voilà, donc tout ça, c'est des entreprises qui fabriquent des super ordinateurs parmi les plus puissants du monde. Et le truc, c'est qu'ils ont des liens avec ben, l'armée, et en particulier Wuxi Jiang, ben, en fait, il appartient carrément à l'armée populaire, quoi. Donc, évidemment, sans douter, vendre des CPU aux Chinois, ça pose pas de problème de défense en soi. Par contre, évidemment, ça va, ça, forcément, là, ça va leur compliquer la tâche énormément pour fabriquer des machines compétitives et des super machines compétitives. Parce qu'on sait, on a déjà parlé, les Occidentaux visaient l'exaflop. Et donc on met des bâtons dans les roues d'un concurrent hein, dans un secteur qui est quand même hautement stratégique, puisqu'évidemment les super ordinateurs servent à tout, à prévoir le temps, comme aussi à concevoir de nouvelles bombes, pourquoi pas. Donc voilà, alors c'est pour faire encore pire peut-être, hein, l'administration Trump envisagerait de forcer ses fournisseurs en matériel 5G à les faire fabriquer en dehors de Chine. Donc ne pas choisir Huawei déjà c'est une chose, mais ça suffit pas. Du matériel Ericsson made in China, comme 45% du matériel actuellement vendu par la marque, hein, ne serait pas le bienvenu. Et pour Nokia, c'est quand même 10% aussi qui serait fabriqué en Chine. Bon, c'est beaucoup moins, évidemment. Difficile néanmoins de savoir combien de sous-traitants ils ont et lesquels sont chinois ou sous-traitent eux-mêmes en Chine. Bon. De toute façon, depuis l'arrivée de Trump, les droits de douane sont devenus très très chers, hein. La guerre commerciale en remet une couche petit à petit. Et on va certainement voir un changement radical dans les chaînes de production mondiale qui sont un petit peu en train de se démondialiser, quoi. On pourra conclure d'ailleurs avec la décision un petit peu étonnante pour moi du Brésil, qui, malgré les demandes de Trump, a accepté un contrat 5G avec Huawei, comme ça, tranquille. Moi, je pensais que Bolsonaro serait plus amical avec Trump. Bon, je suis surpris, mais bon, nul doute que le deal était vraiment intéressant. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Nécessité fait loi, hein, tu penses pas?
Exact. En même temps, ça aurait été finalement assez cocasse d'avoir une espèce d'union internationale des nationalistes.
Oui,
Donc,
c'est
bon, Voilà. C'est un retour en source, aux sources, il pense à lui.
Exactement. Bah, en tout cas, les rebondissements ne s'arrêtent pas là, hein, puisque Trump avait en mai dernier décidé de remonter les droits d'importation de presque tous les biens chinois à 25%. Il n'avait pas dit quand, bah, il semblerait que ce soit désormais imminent, et en fait, ça donne des sueurs froides à tout le monde, enfin à peu près tout le monde, d'Apple à Nintendo, en passant par Sony et Microsoft, tout le monde est concerné en réalité, et il y a eu des estimations d'ailleurs de hausse de prix que ça pouvait mécaniquement provoquer. Donc c'est un ordre de grandeur, c'est donner 70 à 10$ pour un iPhone, donc un iPhone, voilà, enfin, un iPhone cher, j'allais dire, un iPhone quoi, dans les 100 à 120$ pour un laptop. Et bon, évidemment, le secteur de l'ordinateur portable, mais celui des télévisions aussi, hein, c'est des secteurs qui ont des marges qui sont assez faibles. Et donc, c'est vrai que ce genre de fluctuation, ça peut avoir des conséquences vraiment désastreuses, quoi. Donc, à moins de pouvoir les contourner, parce que, bon, voilà, justement, il y a quand même des petits malins, il semblerait. Parce que d'après le New York Times, les fabricants américains ont dompté les Micron, continueraient en douce à livrer des puces par conteneur entier à Huawei, tout simplement, en les important sous une autre appellation, déjà. Pour l'instant, seules les ventes de composants pour les futurs appareils est banni. Pour le reste, ça tient jusqu'à mi-août. Bon, pourtant, évidemment, il est difficile de savoir qu'est-ce qui va être destiné à quel produit, hein, futur ou pas. Et en plus, il y a un avocat qui nous expliquait qu'une boîte américaine peut continuer à fournir des biens à Huawei s'ils ne sont pas fabriqués aux États-Unis et qu'ils ne contiennent pas de technologies sensibles. Par contre, ils ne peuvent pas fournir de services, donc ils n'ont pas de support à leurs produits. Alors, ça tombe serait sous le coup de la loi. Donc, c'est devenu un véritable business légal, hein, de trouver des failles à cette loi pour continuer de faire du business avec les Chinois. Parce que bon, les compagnies américaines ne vont pas s'asseoir volontiers sur les 11 milliards de dollars d'achats que Huawei fait chaque année aux Américains. Bon, ils vont guetter chaque faiblesse de la loi pour continuer le plus longtemps possible à capter le marché. Et bon, est-ce qu'ils iraient à déplacer certaines de leurs unités en dehors des États-Unis pour être tranquilles? C'est même pas exclu. Je sais pas si toi aussi tu suis avec passion Trade War, le feuilleton de l'été, Pierre-Olivier.
C'est rendu tellement dans l'univers de l'absurde que ça en est difficile à suivre parce que on sait plus bien qu'est-ce qui est une caricature de ce qui a été réellement annoncé. Mais c'est clair que c'est passionnant. C'est certain que tous les acteurs sont mobilisés pour éviter de perdre ce gigantesque marché. Et de l'autre côté, on ne peut qu'imaginer à quel point la Chine est en train de bander tous ses muscles pour retrouver rapidement une capacité d'approvisionnement, soit local, soit international, mais clairement, en tout cas, on est en train involontairement là, de construire le nouveau géant de la planète. Là. En coupant la Chine des autres, on le renforce long terme. Hein.
Bah, le monde est en train de changer en réalité. On est en phase d'une transition vraiment historique, je pense, parce que comme tu dis, il y a des blocs qui vont se former, qui vont devenir de plus en plus puissants. Il y a des enjeux stratégiques qui sont en train de complètement bouger, quoi. Il y a énormément de choses qui sont en train de changer. Et oui, c'est clair que dans le monde de dans 10 ans, ce sera pas du tout le même que celui d'aujourd'hui. Je pense aussi, ça sera bon, évidemment passionnant à suivre. On sera là probablement pour vous le relater. Bon, en tout cas, à l'heure où on enregistre, hein, il se passe un autre truc en Chine, c'est le début du MWC Shanghai. C'est la grande messe de la mobilité qui a lieu deux fois par an, une pour chaque moitié du monde en fait, hein, donc à Barcelone en février, pour notre moitié à nous, et puis à Shanghai en ce moment même pour l'autre moitié. Donc on n'a pas encore vu encore beaucoup de choses, donc on reviendra sans doute sur le sujet la fois prochaine, hein. N'hésite pas pote d'ailleurs si tu as repéré d'autres trucs que j'aurais pas noté. Tout de même, on a vu Oppo faire son show avec son téléphone sans notch, mais avec une caméra selfie sous l'écran. Alors, c'est vrai que c'est Xiaomi qui nous avait fait miroiter une telle prouesse il y a quelques semaines déjà, mais Oppo a présenté un appareil utilisable sur le salon. Le principe est sans doute un petit peu le même que celui de Xiaomi, hein. L'écran possède des sous-pixels qui sont un peu réorganisés, l'écran est aussi fait dans un matériau qui est transparent, plus transparent, donc en tout cas dans la zone de la caméra, et la caméra donc est sous le verre. Alors évidemment, le problème c'est que la caméra elle reçoit beaucoup moins de lumière, l'image est déformée, et donc c'est assez dégueulasse. Alors bon, du coup, il faut une caméra qui est plus grosse, qui a un capteur plus gros, une plus grosse ouverture, et il faut un traitement d'image qui est obligatoire pour avoir des selfies potables. Donc pour la même qualité d'image, il y a beaucoup plus de travail, mais voilà, la zone est à peu près invisible dans tous les cas, en tout cas dans la plupart des conditions, à ce qu'ils disent. Bon, je sais pas ce que t'en penses, toi, est-ce que c'est une prouesse pour nous libérer du noche, mais bon, finalement, est-ce que c'est si grave un portable dont l'écran ne va pas strictement jusqu'en haut de l'écran? Je sais pas
oui.
trop.
Oui, absolument, tout à fait. Je vous juge. tous les gens avec une encoche.
Mais non, mais absolument, moi aussi. Non, mais moi aussi, c'est vrai que bon, c'est un petit peu toutes ces contorsions pour tout ça pour amener le truc le plus haut possible. C'est vrai que c'est quand même un petit peu disproportionné. D'autant plus qu'on aura tous, bien entendu, des écrans pliants très très bientôt et tout ça, ça deviendra complètement caduque. Bon, je sais, c'est loin d'être gagné, mais bon, moi je continue à y croire quand même.
Moi aussi.
On verra, l'histoire nous donnera raison. On l'espère. Plus intéressant peut-être, c'est Oppo Mesh Talk. C'est de la conversation téléphonique pair à pair. Donc c'est un système de talkie-walkie, en fait, tout simplement, mais crypté, numérique évidemment, qui peut être relayé sur des kilomètres, hein, d'appareil en appareil, en mode mesh. Donc il n'y a plus besoin d'internet, plus besoin de réseau téléphonique, on peut communiquer directement, en fait. C'est une fonction qui peut être très utile en certaines circonstances, hein, cette espèce de BitTorrent de la voix. Et en fait, moi je me demande pourquoi ça n'existe pas déjà partout sous un format standardisé, quoi, parce que là c'est Oppo qui le fait, mais rien ne dit que si on n'a pas un Oppo, on puisse parler à notre téléphone d'une autre marque, ou bien passer par lui en tant que relais, quoi. Donc c'est vraiment une fonction que j'ai toujours trouvée intéressante, moi, ce type de réseau mesh. Et bon, apparemment, je suis le seul, puisque... Voilà. Enfin, je suis plus le seul, puisqu'il y a Oppo, mais y a pas, ça n'a pas un énorme succès. Je ne sais pas si tu connais d'autres systèmes pareils, toi.
Ouais, bah, y a des systèmes qui sont dédiés, comme... Alors, me rappeler des noms, j'aurais dû faire mes devoirs. Tu vois, cette news, tu l'avais préparée, et moi...
c'est pas grave.
Elle m'a glissé des doigts.
C'est pas grave. Déjà, c'est bien de savoir qu'il y a d'autres choses qui existent et qui sont fonctionnelles.
En fait, lors de l'épisode qu'on avait de hors-série, qu'on avait un peu dédié à la gestion de crise, on avait évoqué justement ce genre de dispositif qui permet de communiquer entre téléphone, entre smartphone qu'on a, là, pas des devices spécifiques, mais vraiment ceux qu'on a, sans réseau. La seule chose que ça nécessitait, bah, c'était... une antenne externe là qu'on devait acheter, et puis c'est pareil, ça constitue un réseau maillé. L'intérêt de l'antenne, c'est que ça allait sur ça élargissait les mailles nécessaires, hein, puisque c'était plusieurs kilomètres, mais c'est sûr que quand on a la masse critique suffisante pour avoir un maillage serré, pourquoi s'en priver? Maintenant, j'ai quand même des éléments de réponse. Je suis pas sûr qu'il y a suffisamment d'Oppo dans la plupart des villes pour que cette fonctionnalité soit vraiment intéressante. Je suis pas sûr qu'un Samsung qui aurait le maillage nécessaire ait envie de se mettre à dos ses partenaires opérateurs à travers le monde. Finalement, la dernière entreprise qui pourrait le faire, c'est Apple, parce que elle a ce statut qui lui permet d'envoyer paître les opérateurs quand nécessaire, et qui a à la fois le volume de vente nécessaire dans beaucoup de pays pour avoir un maillage qui fait que ça fonctionne.
Mais tout à fait, tout à fait. Le truc, c'est qu'effectivement, c'est vrai que c'est surtout utile dans des endroits où les gens en général n'ont pas d'iPhone, quoi. C'est-à-dire des zones qui sont moins densément peuplées, plus désertiques, dans des pays qui sont peut-être moins développés, donc c'est peut-être pas non plus le cœur de cible d'Apple. Mais t'as raison, c'est probablement le seul qui pourrait imposer un truc comme ça, malheureusement. Après Oppo, c'est à Vivo de faire ce intéressant, hein, avec des lunettes de réalité augmentée. Alors, elles connecteront leurs deux futurs écrans transparents et leur capteur 6 degrés de liberté avec un futur téléphone 5G de la marque, et visiblement par câble d'ailleurs. Et en fait, on n'en sait pas plus, hein, donc voilà, donc ce sera pour 2020, l'année zéro de la réalité augmentée. Oui, bon, je sais pas, j'ai peut-être déjà dit ça pour 2019, je m'en souviens plus, probablement même, d'ailleurs.
C'est possible.
Oui, avec Magic Leap, bon, je sais pas si tu penses que la réalité augmentée aura une année zéro l'année prochaine ou en 2021, je sais pas, tu as un pronostic ?
Magic Leap, tu sais ce que j'en pense. Hein.
Oui, c'est vrai, mais bon, c'est quand même sorti finalement, tu vois.
Finalement, oui, c'était pas très révolutionnaire non plus, hein, mais...
Oui, surtout que maintenant qu'il y a HoloLens 2, je pense que c'est complètement surclassé. Mais bon, mec, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est une course sans fin. Qu'est-ce qui est sans fin aussi ? On va reparler d'un ancien, on va reparler de WebOS. Oui, anciennement le Palm WebOS, puisque c'était sur les tout derniers Palm qu'on a vu apparaître, je crois. Puis ensuite le HP WebOS a été racheté, puis le LG WebOS, puisque c'était racheté à HP. Et voilà, donc cette variante de Linux pour téléphone mobile s'est retrouvée finalement dans les téléconnectés. Alors, c'est un projet qui a 10 ans maintenant, WebOS, et depuis 2014, c'est un projet qui s'appuie sur Qt. Bon, Qt, c'est un framework multiplateforme pour fabriquer des applis qui sont multiplateformes, et qui a donc facilité le portage de WebOS sur télé, sur téléphone, sur frigo, sur montre même d'ailleurs. Donc en gros, Samsung a Tizen et LG a WebOS. Chacun veut l'imposer le plus largement possible, et c'est pas facile. Et donc la collaboration avec Qt va s'approfondir. Et à la clé, ils veulent carrément des robots sous WebOS, des objets connectés, des voitures sous WebOS. Franchement, moi je veux pas de mal à WebOS, hein, qui est un open source, hein, et si LG peut tirer son épingle du jeu avec Qt, pourquoi pas. Je sais pas si toi, pote, t'es plutôt team WebOS, ou si tu penses que voilà des trucs comme ça, il y en a 11 à la tizaine.
Oh là 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 là, celui-là, il mériterait un applaudissement là, si on enregistrait devant public.
Je vais peut-être mettre des faux claps, tu sais, derrière.
Ouais, comme dans Friends, la foule qui rip, c'est toujours la même. Moi déjà, à partir du moment où on commence à intégrer les API de Qt pour WebOS, pour moi c'est plus WebOS, hein. Il y a eu plein d'autres variantes de Linux embarquées à base de Qt, je pense qu'on a perdu l'identité de ce qui faisait le Palm Pre à l'époque, et on est sur d'autres OS. La guerre des Linux embarqués, elle s'est jamais vraiment terminée, même si c'est sûr que sur le côté grand public, Android a un peu écrasé tout le monde. Maintenant, à l'aune des événements récents et des différents défis que les entreprises d'ici ou d'ailleurs vont devoir faire face, c'est certain que avoir son OS entre guillemets souverain pour son entreprise, son écosystème, voire son pays, ça va revenir sur le devant de la scène. Entre Tizen et WebOS, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais, hein. Chacun a probablement son lot de défauts et de qualités, mais c'est des architectures qui sont assez similaires et qui se comparent d'ailleurs très bien avec tous les autres Linux embarqués qui ont existé, existent ou vont exister dans un proche avenir. Il y a rien de différenciant vraiment.
Oui, c'est vrai que WebOS, je me souviens sur les Palm Pre, et il était quand même plutôt sexy ce truc, hein, ça marchait bien, mais bon, apparemment, le Palm Pre, ça a quand même pas pris, malheureusement. Donc bon, écoute, à voir. On va changer peut-être d'environnement avec Microsoft. Donc il y a un gros titre qui a beaucoup circulé cette semaine, la plus grosse erreur de Bill Gates. Donc, forcément, ça fait cliquer. Je pense que tu l'as vu passer d'ailleurs. Bon, essentiellement, son erreur, c'est quoi ? C'est d'avoir échoué contre Android, à le contrer, à devenir l'alternative à iOS sur le mobile. Donc il explique bien, en fait, globalement, en fait, il explique bien l'effet de réseau qui fait qu'il est super difficile pour un nouveau venu de s'imposer quand il y a un ou deux écosystèmes comme ça qui sont déjà en place. D'ailleurs, le fait que Microsoft, qui a quand même vraiment essayé, hein, avec tous ses moyens, n'y soit pas parvenu, montre à quel point, dans ce secteur, les monopoles sont solides, quoi. Donc en gros, il dit que Google est trop gros et trop puissant, et il regrette d'être pas trop gros et trop puissant à sa place.
A vraiment essayé.
Ils ont payé des développeurs pour quand même, pour.
C'est sûr, mais simplement, si on peut partir un petit peu sur la rétrospective, faut se rappeler que Windows Mobile, y compris après la fin de son support, était toujours l'OS de prédilection en entreprise. Juste derrière BlackBerry, et puis à la mort de BlackBerry, devant BlackBerry, Windows Mobile aurait très bien pu continuer à exister et être modernisé. La stack n'était pas très 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 différente de celle d'Android, en tout cas une fois qu'on a amené le .NET dessus. Donc pourquoi avoir liquidé cette OS qui fonctionnait bien pour repartir entièrement de zéro avec Windows Phone? Je comprends les raisons techniques, mais les raisons marketing et commerciales, elles sont difficiles à comprendre. Pourquoi avoir acheté Nokia pour l'avoir juste laissé tomber quand on a une stratégie d'OS ouvert dans et de pas construire un écosystème fermé, ben c'est quand même difficile de trouver des constructeurs qui veulent intégrer ton OS. Si le plus gros constructeur, tu l'as racheté, puis t'en fais ta propre marque de téléphone, et en plus les modèles sont pas, enfin,
Ouais,
pas fou.
c'est
Il y a
vrai.
eu plein de trucs qui font que ça c'est
Ouais, stratégiquement,
difficile
c'était un
de.
petit peu
Ouais.
étrange, hein, c'est vrai. Je reconnais. Après, bon, je sais pas, c'est vrai qu'ils ont essayé au début beaucoup, et puis c'est vrai qu'ils ont fini par laisser tomber. L'histoire de Nokia était vraiment étrange, effectivement, parce qu'ils ont quand même payé ça très cher. Bon, je sais pas trop. Bon, écoute, on peut refaire le match, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, Microsoft est toujours leader sur les PC, et bon, pour bien s'assurer que ça reste le cas, je suppose Microsoft et Kano proposeront une surface pour les enfants. Alors, ce sera un ordinateur à monter. On comprend par là qu'il faudra brancher la batterie et le haut-parleur. Hein, waouh. Et au final, vous aurez une Kano PC, qui est une surface plutôt. L'appareil, dont l'aspect modulaire est quand même assez anecdotique. C'est une réplique de surface un peu trop épaisse dans laquelle tourne Windows 10S et des softs aussi pour apprendre à coder. Donc c'est 300$. C'est pour octobre en Angleterre, Canada et États-Unis. Bon, alors ok, c'est sans doute une offensive contre les Chromebooks, etc. Bon, franchement, je trouve que faire un PC à monter qui n'a que 3 pièces, je crois qu'on arrive à la limite du concept de PC à monter. Parce que finalement, voilà, on choisit une machine comme modèle qui est tout sauf modulaire, démontable ou réparable. Voilà. Donc je suis pas trop convaincu par cette initiative. Si c'est pour ça, autant acheter une vraie Surface Go, hein, elle sera plus fine, plus légère, elle fera pas semblant, tu vois, d'être une machine éducative. Bon, bah, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je suis pas
Oh,
trop
ça
convaincu.
sent clairement le produit qui est fait pour
Pour habituer,
passer
quoi.
non, pour passer des règlements en mode si du coup c'est pas un ordinateur puisque c'est un truc à monter soi-même donc il n'y a pas d'appel d'offres ou quelque chose comme ça. Enfin,
Ouais, là c'est
je
encore pire en fait.
suppute. Ouais, je pense que c'est assez vicieux.
Non, parce que franchement, bon, je veux dire, le truc à monter, mais vraiment, c'est ridicule, quoi. Et le truc, il est tout. Il est donc. T'as même pas à brancher l'écran. T'as l'écran et la carte mère qui est dans le bloc déjà. Enfin bon, c'est très très étrange. Bon, enfin, sinon, on a eu quelques maigres infos, enfin présumées infos, hein, sur Centaurus, cette machine arlésienne de Microsoft, qui aurait donc deux écrans 4 tiers de 9 pouces, une nouvelle version de Windows, donc un Core OS avec un support pour le double écran, un CPU Intel 10 nanomètres, et surtout, truc bizarre, ça
La
exécuterait
blague,
nativement
voilà.
les applications Android. Donc une
Comme
machine
d'habitude, hein, les
chimère.
applications Android, mais pas avec les Play Services. Et puis voilà, donc Microsoft va ressortir de ses cartons tout plein de poussière et de toiles d'araignée la plateforme pour mapper les Play Services avec les services de Microsoft. Comme on repart vraiment là-dessus?
Écoute,
Moi, je les comprends pas.
t'y crois pas trop, hein, pour 2020, cette espèce de chimère, c'est peu probable pour toi. Je comprends pas très bien non plus, honnêtement.
Non, ouais, c'est ça, c'est difficile là, comme.
Hein. Ouais, moi aussi, je suis assez perplexe face à cette rumeur, je t'avouerai. Bon, au chapitre des technos auxquels je crois à moitié, en tout cas je parle pour moi, on a Philips qui se met au Li-Fi, enfin plus précisément à c'est Signify, hein, le nouveau nom de Philips Lighting, qui va proposer des solutions Li-Fi. Bon, on rappelle que le Li-Fi, c'est du Wi-Fi avec de la lumière et pas des ondes radio, donc en gros, c'est des lumières qui clignotent très 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 vite. Le débit peut atteindre entre 150 et 200 Mbps. Bon, forcément, l'œil ne voit strictement rien, mais avec des capteurs, on peut décoder le signal et transmettre des données entre deux lumières, par exemple, à 200 Mbps. Ou bien entre lumière et PC, bien sûr. Mais bon, il faut que le PC ait un capteur, il faut que la lumière soit visible. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le Li-Fi n'est pas encore décollé. Parce que bon, on en parle depuis longtemps quand même. Hein. Bon, entre deux pièces, il n'y a pas de communication possible, si l'appareil est caché non plus. Bon, Signify, une fois encore, vise plutôt un marché pro, je pense, pour son Li-Fi, qui peut être intégré donc dans les lampes de la marque, ou alors même dans les anciennes lampes. De la marque quand même aussi, et on avait entendu parler de Li-Fi pour les avions dernièrement. Il y a Airbus qui explore la possibilité de mettre du Li-Fi dans les avions pour augmenter la connectivité tout en évitant les ondes radio. Donc le Li-Fi va-t-il enfin émerger? Bon, pour le moment, il n'y a rien qui marche en Li-Fi. Hein. Moi, j'ai rien vu, aucun portable, aucun ordinateur. J'avoue que je suis un peu sceptique, et ça fait 4 ans qu'on en parle. Voilà, je vois pas l'intérêt, franchement. Hein. Entre le Wi-Fi 6 et la 5G qui arrive, je vois pas trop de place pour le Li-Fi avec tous les handicaps qu'il a. Hein. C'est une portée de quelques mètres, une ligne de vue obligatoire. Bon, je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, moi ça me dit pas.
Je suis totalement d'accord avec toi.
Voilà, le Li-Fi, moi. Bon. Écoute, en bonus, et en parlant d'ampoule intelligente, une vidéo qui est devenue virale, bien malgré General Electric. qui décrit comment remettre à zéro les ampoules de la marque. Alors je ne sais pas comment ça a pu en arriver là, hein, par quel mystère, personne n'a rien eu à redire sur ce processus, qui fait quand même 15 étapes à base de « je fais du morse avec ma lampe ». Le processus n'est pas le même selon la génération de fermoirs, et d'ailleurs on ne peut pas connaître la génération de fermoirs à l'avance. Bon, c'est absolument hilarant, en tout cas si t'es pas équipé de ces ampoules, c'est absolument hilarant, et c'est vraiment incroyable quoi, c'est à base de vous laissez allumer 8 secondes, vous éteignez 2 secondes, vous laissez allumer 8 secondes, vous éteignez 8 secondes, et ça pendant 15 étapes, enfin moi c'est complètement n'importe quoi, c'est devenu un mème d'ailleurs, bon, voilà, c'est la joie aussi des ampoules connectées. Je vais pas trop dire de mal, parce qu'on a quand même un podcast domotique, donc bon...
On les laissera se débrouiller avec ça.
Exactement, exactement. Bon, une nouvelle qui fait plaisir quand même, le Raspberry Pi 4 est arrivé, et c'est un gros upgrade, hein, c'est simple, puisque tout va beaucoup plus vite. Voilà, on passe à un CPU 1,5 GHz, un Cortex A72 à 4 cœurs toujours, donc facilement 2 à 3 fois la vitesse de l'ancien, qui était un Cortex A53, donc vraiment un truc bien plus ancien. Le GPU passe à 500 MHz, il décode le H265, il supporte deux écrans 4K, quand même, excusez du peu. On passe à l'USB 3 et au gigabit Internet, et même la carte SD voit son débit doubler, donc la RAM passe en DDR4, et cette fois il y a des options, donc vous pourrez choisir entre 1 et 4 Go de RAM, et là, avec 4 Go de RAM, autant dire que vous avez une machine qui peut facilement devenir un PC de bureau, tout simplement, hein, si vous n'avez pas des exigences énormes. La carte donc qui dont le prix varie de 35 à 55$ pour la version 1 et 45$ pour la version 2 et 55$ pour la version 4 Go, ben c'est voilà, ce qu'on peut dire c'est qu'il ne se moque pas du monde puisque c'est dur de faire un meilleur rapport puissance-prix. Et d'ailleurs si tu te demandes ce que tu peux faire avec ton Raspberry Pi, ben il y a un exemple marquant. Puisque tu imagines que le site raspberrypi.org, c'est un truc qui est super fréquenté, il y a des millions de visiteurs par jour sur ce site-là. Eh bien, le site entier, il est hébergé par un cluster de 18 Raspberry Pi. Et oui, 18 de ces petites bébêtes peuvent faire tourner le site web, et c'est un site web quand même mondialement connu. Alors évidemment, c'est expérimental, hein, ça pose quand même un certain nombre de problèmes de maintenance, de sécurité, voilà, de redondance, de versions logicielles qui ne sont pas non plus top niveau, mais ça marche, et le data center tient dans une boîte à chaussures, moins les fils, parce que je pense que les fils et les switches, quand même, ça prend un petit peu plus de place que ça, mais honnêtement, c'est quand même assez fort. Donc voilà, c'est des framboises, c'est bon, c'est pas cher, mangez-en, et vous pouvez faire votre data center vous-même si vous n'avez pas beaucoup de sous. Et puisqu'on parle de sous, de pognon, d'oseille, bah comment passer à côté du deuxième feuilleton de l'été, hein, c'est un égaté, un TF1 peut aller se rhabiller, Libra et le monde fantastique des monnaies cryptographiques. Et oui, parce que voilà, la semaine dernière, on avait tout juste pu voir l'annonce de Facebook. Depuis, il y a eu des réactions, il y a eu beaucoup de réactions et d'analyses, hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Libra ne laisse personne indifférent. Bon, en France, déjà, il y a donc notre Bruno Le Maire national qui a affirmé que le Libra ne doit pas être une monnaie souveraine et qu'un tel outil permettra à Facebook d'agréger encore plus de données et que ça ne fait que renforcer notre détermination à réguler les géants de l'Internet. Je cite à moitié, mais je cite à peu près. Et il y a aussi Mark Carney, de la Bank of England, qui, donc lui, par contre, il garde plutôt un esprit ouvert, mais il insiste sur le fait que si c'est une monnaie, ben, elle devra se plier aux mêmes contraintes, aux mêmes règles que les autres. Voilà, le fait que du jour au lendemain, 2 milliards de personnes deviennent clientes d'une banque fantôme alerte aussi Markus Ferberg, hein, donc qui est membre du Parlement européen. Et puis bien sûr, il n'y a pas qu'en Europe, hein, sur sa terre natale, enfin quoi qu'en fait, ce soit plutôt la Suisse, sa terre natale, mais bon. Bref, aux États-Unis aussi, les pouvoirs publics s'émeuvent de la puissance potentielle du Libra. Le 16 juillet, Facebook est invité à s'expliquer sur le Libra devant le Sénat. Il y a Maxine Waters, donc qui est une sénatrice démocrate, et un collègue sénateur républicain, comme quoi, qui souhaite aussi que Facebook vienne taper le carton devant le House Finance Committee, et l'exhorte donc à mettre le développement du Libra en pause, ce que, bien entendu, Facebook a décliné. Bon, voilà, bref, tout le monde prend cela très au sérieux, et je brûle le pod, évidemment, de te poser la question, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est Libra, Libravo, Libranlo, Libra Zéro.
Alors déjà, il y a beaucoup trop de jeux de mots pour qu'on les énumère tous. Et ça, c'est cool, parce que déjà, ça va nous donner quand même matière à faire des titres assez sympas pendant des siècles et des siècles. Ça, c'est quand même l'aspect positif.
Ouais, je trouve aussi, ouais.
C'est important.
Oui, c'est un bon nom.
Ah bah oui, quand même. Et puis en plus, c'est un nom, pour une fois, c'est un nom assez international. On notera, ouais. c'est pas de l'anglais. Ouais.
Le retour au latin, ça marche toujours, non?
C'est exact, hein, moi c'est toujours ma devise, les gens qui demandent comment nommer leur start-up, là, pour vrai, là, le latin dans le monde occidental, là, c'est ce qui permet à tout le monde d'être capable de prononcer ton nom et de comprendre assez rapidement quelles sont les valeurs associées. Et justement, les valeurs associées autour du Libra, eh ben on est quand même tenté de se dire que c'est vraiment juste pour être libre de toute régulation. Donc forcément, quand on est un politique qui représente ou qui souhaite représenter l'État, c'est pas une bonne nouvelle. On comprend le questionnement des politiques, même s'ils ont parfois des formulations maladroites, parce qu'ils sont pas toujours très au fait de qu'est-ce qu'est une crypto-monnaie, à savoir pas une monnaie hein, dans la plupart des cas, même si on peut s'en servir comme monnaie d'échange, comme l'or n'est pas une monnaie, mais on peut s'en servir comme monnaie d'échange. Il y a plein de questions que ces gens, mais que nous aussi, vulgarisateurs, auditeurs, internautes, ont. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de réponses côté Facebook. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le premier usage qui va être déverrouillé sur Libra, c'est l'usage justement de monnaie d'échange, mais qu'il est bien prévu dans le futur qu'il y ait d'autres applications hein, qui fonctionnent sur le protocole Libra, lesquelles, grand mystère. Est-ce qu'elles seront aussi régulées par les membres de la fondation qui gouverne le Libra? A priori, oui, dans un premier temps. On parle beaucoup de 28 entreprises, mais l'objectif de ces 28 entreprises, c'est d'en recruter jusqu'à ce qu'ils soient au minimum 100, puisque la mise de fonds de ces entreprises doit correspondre à 1% comment appeler ça, de la réserve, hein, finalement, qui garantit les transactions du Libra. Donc ouais, il y a pas mal de choses, d'informations partielles, manquantes ou inconsidérées autour de ce truc. Et moi, je trouve que c'est un sujet assez passionnant sur lequel on n'attendait pas forcément Facebook, même s'il y avait des rumeurs hein, de plus en plus persistantes. En tout cas, moi, je dois l'avouer, je n'y croyais pas.
Écoute, moi j'y croyais, honnêtement, c'est vrai qu'on avait, comme tu dis, on a eu des bruits de couloir depuis assez longtemps là-dessus, et moi je pensais en fait que non seulement Facebook allait le faire, mais je pensais que Telegram allait le faire aussi, et même allait le faire avant. Bon, je sais pas si Telegram a toujours les mêmes... Il y a eu des levées de fonds monstrueuses hein, pour Telegram, pour la monnaie Telegram. Moi j'avais l'impression qu'il allait le faire avant, mais bon, apparemment ils se sont fait doubler, donc écoute, je sais pas ce qui va devenir de la monnaie Telegram. Quoi qu'il en soit, chez Facebook, je pense pas qu'ils sont pas très bons de timing aussi. Tu sais, on se souvient, alors même qu'ils étaient empêtrés dans les scandales de vie privée, de fuite de données, etc., ils sortaient le portal comme ça, tranquille, avec une caméra, un micro always on, et c'est vrai que c'était, c'était un petit peu bizarre. Là, on peut pas vraiment dire que Facebook soit sorti complètement, et d'ailleurs, cette semaine, peut-être qu'elle va nous permettre de renouer avec le SFS, hein, le scandale Facebook de la semaine. Puisque c'est The Verge qui, au cours de longs, très longs articles, hein, compile les témoignages des sous-traitants qui modèrent le réseau social. Alors, bien qu'ils soient tous sous NDA, les langues se délient quand même, hein, tellement les conditions de travail sont éprouvantes, des témoignages qui font froid dans le dos. Un récit qui commence d'ailleurs par un décès hein, devant l'ordinateur sur lequel un homme de 42 ans voyait passer des dizaines, voire des centaines d'exemples de ce que l'humanité fait de pire chaque jour. Quoi. Et d'ailleurs, je vais rien en dire pour pas classer ce podcast en 18+. Devant lequel d'ailleurs il a fini par avoir une crise cardiaque. En lien avec le boulot ou pas, en fait, on ne sait pas, et finalement les boîtes qui emploient cette chair à canon, hein, comme ils se définissent eux-mêmes, ne semblent pas vraiment s'en soucier. Donc voilà, détresse psychologique, insalubrité des locaux, pression constante, management brutal, des conditions de travail étonnantes hein, pour la première économie du monde, on va dire. Donc c'est un article assez cauchemardesque, et qui, encore une fois, n'est pas vraiment flatteur pour Facebook, qui, même s'il n'emploie pas directement ces gens, il fixe tout de même les objectifs qui sont à peine tenables, et franchement, ça arrange rien. Donc la boîte qui veut révolutionner le monde et la finance hein, devrait peut-être déjà proposer des conditions de travail décentes à ses employés, fussent-ils sous-traitants. Bon, c'est peut-être hors sujet, sans doute même, mais c'est une critique supplémentaire qu'on peut faire à Facebook et à ses ambitions. En plus de ça, que les experts en crypto ont fait à la monnaie depuis qu'ils ont épluché un petit peu son livre blanc. Et donc, comme tu disais, il y a beaucoup de trucs, qu'on peut en dire. Déjà, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas une crypto-monnaie, en fait, hein, tout simplement, c'est parce qu'il y a que 30 nœuds, c'est pas assez, c'est pas une blockchain, parce que ça n'a pas la structure de données d'une blockchain, déjà. Ça ressemble à l'Ethereum, Mais justement, ça ressemble tellement à de l'Ethereum qu'il pourrait avoir exactement les mêmes problèmes que lui. Alors on rappelle qu'Ethereum, c'est une crypto-monnaie qui est donc assez ancienne, qui marche sur une proof of work et qui cherche depuis quelques années à passer à un proof of stake, c'est-à-dire des algorithmes en gros de minage, enfin des algorithmes de consensus qui sont beaucoup moins voraces en énergie. Or, ils ne l'ont pas fait alors que c'était prévu pour cette année, il me semble. Tout simplement parce que techniquement, c'est très 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 compliqué d'avoir des algorithmes de proof of stake qui fonctionnent sur des très très gros réseaux sans aucune confiance. Parce que c'est ça le truc, hein. C'est quand il n'y a pas de confiance, eh bien, on remplace par les preuves de travail. Et remplacer ça par des preuves d'enjeu, c'est super compliqué. Donc bon, ils sont assez sceptiques sur le fait que le truc va pouvoir scaler comme ça. Avec les preuves d'enjeu, donc ça sera probablement toujours une sorte de cartel qui va être à la base de cette crypto-monnaie, quoi. Comme tu disais, il y a aussi beaucoup de choses vagues, d'ailleurs, dont la création et la destruction de pièces, hein, de Bei-Bra, puisque c'est fait quand même à la discrétion des membres. Il y a aussi une sorte d'opacité de la capitalisation de base, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ce n'est pas forcément que du cash, donc c'est pas du coup ce qui pourrait se passer en cas de crise financière, hein, si ça fait chuter la valeur du capital auquel la monnaie est adossée. En cas de retrait massif, qu'est-ce qui se passe? Calibra te fera-t-il un jour être sauvé comme Bank of America en 2008? On ne sait pas. Voilà, le cartel Libra va aussi recevoir et gérer d'énormes fonds sans rémunérer les investissements, puisque apparemment, si les gens achètent des Libras avec du véritable argent, bah, ils vont se retrouver avec ce fric. Bon, ensuite, évidemment, il y a toujours les grosses questions. Comment faire face au blanchiment? Facebook ne se servira pas de Calibra pour faire du ciblage publicitaire pour l'instant. L'avenir, on ne sait pas non plus. Bon. Depuis, Facebook a lancé Testnet, hein, le réseau de tests, et les experts considèrent que Libra est une sorte d'Ethereum, mais en réseau privé, bon, finalement, ils ne sont pas convaincus. Pourtant, hasard ou coïncidence, tu l'as vu, le Bitcoin a atteint des sommets, hein, plus de 12 000 $ cette semaine, un record. On rappelle qu'il a atteint les 20 000 $ l'an dernier, qu'il a subi un crash massif, et que depuis un bon moment, il vivotait autour des 3 000 $-4 000 $. Alors, est-ce que tu penses que c'est reparti, pas de la ruée vers le crypto?
Bah, je t'avoue
C'est
que
bon.
je ne suis pas le plus connaissant là, sur les crypto-monnaies. Moi, je trouve ça intéressant comme mécanisme. Je trouve ça intéressant d'un point de vue ingénierie. Maintenant, la partie monnaie en tant que telle, et en particulier la partie spéculative, c'est clairement pas quelque chose qui m'intéresse. Alors, savoir si le Bitcoin est reparti pour une nouvelle ascension avant éventuellement une nouvelle descente fulgurante, je n'en sais rien.
Ouais. Alors c'est toujours difficile parce que le Bitcoin c'est une monnaie qui est principalement spéculative. On a déjà dit qu'il y avait très très peu, enfin très faible pourcentage des transactions qui allaient vers l'économie réelle pour acheter des trucs, hein, des biens ou des services. Et du coup, les fluctuations sont souvent un peu aléatoires, on ne sait pas trop. Là, il y a deux possibilités. Hein, il y a soit effectivement la hype Libra profite à des bitcoins parce que justement, là, ça, en quelque sorte, ça fait rentrer les crypto-monnaies un petit peu dans le mainstream, dans les choses qui sont acceptées par de plus en plus de gens, de plus en plus de financiers. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire que Libra étant considéré comme une monnaie qui n'est pas une crypto, qui est une anti-crypto en quelque sorte, les gens se réfugient vers une vraie crypto qui est le Bitcoin, qui est complètement, elle, pour le coup, isolée de l'économie réelle. Bon, je sais pas, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, sans doute d'ailleurs, et un petit peu d'aléatoire par-dessus, on n'en sait rien. C'est effectivement très très compliqué. En attendant, la remontée des cryptos, ça va encore faciliter un autre fléau de notre monde moderne, qui sont les ransomware. Donc, c'est une mode qui est récente, hein, mais qui s'industrialise. Et puis les malfaiteurs ne cherchent pas le pingouin moyen, comme moi ou toi, hein, parce que c'est quand même beaucoup de travail pour pas un retour sur investissement monstrueux. Non, ils vont chercher des plus gros poissons, forcément, des plus gros budgets, dans des infrastructures informatiques qui sont pas toutes jeunes, et pas trop souvent mises à jour, et où il y a un gros impact en cas de panne. Et oui, donc par exemple, ben des villes, voilà, des villes elles-mêmes, ou des hôpitaux. Voilà, les hôpitaux, c'est bien aussi, hein, et puis c'est pas dangereux. Et oui, en plus, les villes, elles, l'avantage, c'est qu'elles payent. Bon, pas toutes, hein. Baltimore s'est fait attaquer, elle a refusé de payer les 76 000 $. Par contre, Riviera Beach, en Floride, a payé les 600 000 $, et encore, il lui reste à boucher les trous de son infrastructure, donc il y a beaucoup de travail en perspective pour une petite équipe. Et donc oui, bah oui, c'est le monde dans lequel on vit, hein, c'est le monde magnifique, où il faut effectivement, même si vous êtes petit, avoir une super sécurité informatique, sinon, c'est double peine. Bon, il faut quand même savoir qu'en 2017, 58% des personnes interrogées à la Black Hat USA pensaient que leurs employeurs n'avaient pas mis en place les mesures de défense nécessaires ou les plans B en cas de catastrophe, ou comprendre les backups et tout. Bref, voilà, les ransomware ont malheureusement de beaux jours devant eux, c'est quand même assez malheureux, quoi. T'as pas été frappé par des ransomware, toi, ça va, Pod?
Non,
Toi ou
mais
ta
c'est des
boîte
choses qui pourraient arriver. Hein. Nous, l'actualité, c'est que la plus grosse banque, qui n'est pas une banque, hein, qui est enfin un réseau de caisses populaires, s'est fait chaparder. C'est vraiment un mot de merde.
Non,
J'essayais de
c'est
dire
très
un
mignon
truc
comme
pas
ça.
vulgaire et puis
Mais
bon,
non, mais
bref.
c'est ça. Mais moi aussi, mais là, c'est très très mignon. Vas-y,
En
parfait.
tout cas, voilà, une base de données contenant les informations de 2,4 millions de personnes. On est 8 hein, au total, hein. Donc ça fait beaucoup de monde. Et ça, aujourd'hui, a priori, c'est dans la nature, hein, malgré l'arrestation de l'employé, hein, puisque ça s'est fait à l'interne comme job. Ben, on ne sait pas trop ce qu'il advient de nos données, sachant qu'elles se recoupent probablement avec les données issues du piratage de Equifax il y a quelques années. Tout ça pour dire que ben, les ransomware, clairement, et puis les jobs de l'intérieur, ça, on peut pas y faire. Il y a toujours quelqu'un qui a les accès. On finit toujours quand on a accès physique là. C'est assez catastrophique. Donc, clairement, les enjeux de sécurité informatique pour les institutions, c'est énorme.
Oui, mais c'est énorme. Et d'ailleurs, je parle là de cas aux États-Unis, mais en réalité, et en France aussi, hein, il y a des hôpitaux, par exemple, qui se sont fait attaquer plusieurs fois par des hackers, hein, pour ransomware ou autre. Et c'est vraiment catastrophique, quoi, je trouve. Bon, écoute, c'est assez pourri, je reconnais. On va finir cette rubrique avec des choses pas fortes. Je sais pas si c'est une chose plus légère ou pas. En tous les cas, c'est des produits pour la jeunesse. Le Monopoly, par exemple, qui revient en version dématérialisée. Et oui, il n'y a plus besoin de manipuler des petits billets, un chapeau intelligent qui s'occupe de tous les comptes, et tout ça avec la reconnaissance vocale. Bon, c'est peut-être une grossière erreur d'interprétation, d'ailleurs, à mon sens, puisque je trouve qu'une partie du plaisir de jouer au Monopoly, surtout pour les enfants, hein, c'est de manipuler les petits billets. Et en plus, ça donne une illustration quand même assez tangible du budget, quoi, ce qui peut avoir une fonction éducative, donc voilà, savoir gérer son budget, ça peut être utile, mais bon. Voilà, c'est peut-être sans doute pour mieux les habituer à leur futur cashless. Voilà, la Poste enfonce le clou en voulant la mort, mais pourquoi tant de haine? De l'argent de poche, en espèces, tout simplement, les petites pièces et tout ça. Puisque Jab sort un porte-monnaie sans contact, limité à 250 euros max, et qui supporte les paiements de 30 euros max, même pour les plus jeunes de 8 à 14 ans. Parce que bon, tu comprends, c'est pas parce que les enfants sont trop jeunes pour avoir un compte bancaire que la fintech va renoncer à se faire du fric dessus, faut pas déconner. Donc voilà, le cash, chronique d'une mort annoncée, hein, n'est-ce pas, Pod? Ça a l'air acté.
Bah, surtout, bon là, l'angle qui est attaqué par la Poste, il est très intéressant, puisque quand on est parent, on veut probablement pas que les enfants puissent dépenser leur argent de poche n'importe où. Hein, si c'est pour acheter un sandwich, ben c'est pas pour aller pour amasser de l'argent pour un jeu vidéo et sauter des repas ou ce genre de choses. Là, même si c'est pas au menu des fonctionnalités pour le moment, je suis persuadé que ça va venir. Et ça pose des questions, hein, parce que
Oui, flic ton enfant, toi aussi.
exact, hein, braver l'interdit, ça fait quand même partie de l'éducation. Apprendre qu'est-ce qui est raisonnable comme bravade, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles sont les échelles de punition. Enfin, tu vois, si t'as jamais violé un règlement quand t'es gamin, qu'est-ce que ça donne quand t'es adulte et que t'es confronté à des choix devant toi? Je sais pas. Bref, en tout cas, le cashless pour l'enfance, je me pose des questions.
Oui, exactement. Bah oui, moi aussi. D'ailleurs, on va pas faire l'instant Black Mirror, mais il y a effectivement un épisode là-dessus, hein. Celui réalisé par Jodie Foster, qui voilà, porte ça au maximum. Vous pouvez le revoir si vous voulez. Je sais plus quel. Voilà, je me souviens plus du titre. Bon, c'est pas grave. Et toi, donc, la disparition des petits billets dans le Monopoly, ça te fait quelque chose ou pas?
Je pense que t'as totalement raison que d'un point de vue marketing, ça peut pas marcher parce que le fun est précisément d'avoir des billets. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus.
Oui, bah écoute, ouais, je trouve aussi, parce que franchement, parler à une sorte d'Amazon éco-moche pendant tout le truc, je vois pas trop le fun. Bon, écoute, on verra bien ce que ça donne, j'espère que ça sera un bide monumental. Bon, ben, je pense qu'on a conclu cette rubrique financière, on va dire, mais on va quand même rester un petit peu avec les jeunes, parce qu'il y a un article qui a fait les gros titres cette semaine, et c'est un article d'ailleurs auquel moi j'ai cru, parce que c'est vrai que voilà, c'est un article comme quoi nos jeunes, enfin les jeunes, deviendraient des espèces de licornes, ce qui leur pousserait une corne sur la tête, sauf que cette corne serait au bas de leur crâne, comme ça. Je ne sais pas si tu as vu cet article, il y a pas
Oui,
mal
j'ai vu passer
circulé.
ça. Après, je sais pas si je te vole les mots de la bouche, si c'est ce que tu avais prévu de dire, mais enfin, il y a un certain nombre de biais qui sont présents à la fois dans l'étude et puis alors encore plus dans les interprétations que les médias, y compris spécialisés, en font.
Oui, bah parce que moi je l'ai vu donc, bon, je l'ai vu sur je sais plus quel truc en premier, mais bon j'ai regardé un petit peu les sources puisque tu comprends quand même on regarde nos sources. Donc moi la source qui m'a amené sur quelque chose comme Fortune, je crois, ou Forbes, je sais plus. Donc bon, un truc pas complètement délirant à la base, et j'ai vu que c'était ça a été relayé, en fait ça relayait un article de Nature. Donc là je me suis dit bon bah ok c'est bon quoi, tu vois, il n'y a pas de souci. Et donc j'y ai cru, je me suis dit bon bah ok c'est vraiment bizarre, mais voilà ça a l'air legit. Et finalement, il s'avère que Ars Technica est plongé dans, enfin ce que j'ai pas fait, donc est plongé dans l'article lui-même. Et donc c'est malheureux parce que ça veut dire qu'en gros, si tu vas pas toi-même lire les articles scientifiques de Nature qui sont pas forcément très très faciles d'accès, bon ben voilà, en gros tu crois des gros titres et forcément c'est pas forcément exactement la même chose. Parce que bon, quel est l'enjeu? Alors l'enjeu, effectivement, c'est pourquoi nos jeunes développent ces espèces de cornes derrière le truc. Alors déjà, c'est pas des cornes, c'est des excroissances qu'on a à la base du crâne et qu'on a tous à la base du crâne auxquelles s'attachent des ligaments et des tendons qui sont utiles quand on penche la tête, quoi, globalement. Et au plus on penche la tête, au plus on va avoir tendance à tirer dans cette zone-là, et donc au plus cette excroissance va avoir tendance à être développée. Il faut savoir que c'est aussi sexuel, c'est-à-dire que les femmes ont une excroissance très légère, alors que les hommes ont une excroissance beaucoup plus, une protubérance qui est beaucoup plus marquée, et on s'en sert même pour différencier les cadavres. Donc voilà, c'est en fait le plus gros truc, le plus gros critère pour savoir si t'as une grosse corne ou pas, c'est si t'as un mec ou une femme. Bon. Cela dit, ils ont quand même, enfin, voilà, ils exhibent quand même des rayons X où ils montrent donc ce truc-là. Et en fait, il y a deux choses problématiques. Hein. Alors déjà, enfin, il y a plusieurs choses problématiques. La première, c'est que déjà, un des auteurs est un chiropracteur masseur qui vend des trucs et qui a peut-être intérêt à te faire croire que les nouvelles technologies te déforment le squelette, parce que c'est peut-être bon pour son business. Donc il y a déjà un petit mélange des genres là-dessus. Et ensuite, ben, il y a le fait qu'ils ont pris donc des rayons X, des radios hein, qui existaient déjà, et ils ont recensé donc en fonction de l'âge et du sexe, ils ont recensé les plus grosses protubérances, et ils ont remarqué que chez les jeunes, il y avait quand même une prévalence de la protubérance. Ils ont conclu très rapidement que ben, les jeunes, voilà, ils sont beaucoup sur leur téléphone mobile, et que donc c'est à cause de ça qu'ils développent des grosses protubérances à l'arrière du crâne. Or, il n'y a absolument aucune donnée là-dessus. C'est-à-dire que déjà, la manière dont est samplé le truc, l'échantillon, elle n'est pas claire du tout. Parce que, bon, globalement, il faut savoir que cette protubérance, elle n'a aucun impact. C'est-à-dire, elle le fait pas mal, ça ne pose aucun problème, quoi. Et que donc, globalement, la plupart du temps, les médecins s'en foutent complètement et ils ne la regardent pas. Donc là, pourquoi est-ce que il y avait des. Ils ont recensé autant de radios qui montraient la protubérance? Déjà, ce n'est pas très très clair comment ça a été sélectionné. Et ensuite, il n'y a aucune donnée sur l'utilisation du mobile des gens dont ils ont fait la radio. Donc il n'y a absolument aucune preuve que ce soit relié à une utilisation excessive d'un téléphone mobile ou d'une lecture excessive ou de quoi que ce soit d'autre. Donc il y a, y a, bon, y a, voilà, y a, gros, y a des biais, il y a des imperfections, enfin il y a des imprécisions dans cette truc, quoi, dans cette étude, qui font qu'il faut la prendre avec des très très grosses pincettes et que très probablement on a tous, en particulier les hommes, une protubérance et que peut-être même que constitutivement elle est plus grosse chez certains que chez d'autres et qu'en fait, bon voilà, le téléphone mobile n'a pas grand-chose à voir là-dedans et il faut peut-être se méfier un petit peu de ces gros titres qui disent voilà, les téléphones mobiles donnent des cornes à nos ados. En fait, probablement pas, tout simplement. Donc c'est un petit peu malheureux parce que voilà, même sur des médias. Qui ont quand même pignon sur rue, ben, c'est pas forcément traité avec le sérieux que ça aurait nécessité, et du coup, voilà, on se dit qu'à chaque fois, il faut retourner aux sources, et c'est quand même fatigant de se dire qu'il faut lire les articles Nature à chaque fois qu'on voit un gros titre sur Internet, quoi. Bon. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça.
C'est malheureux, mais ouais, pas tellement le choix, hein.
Ouais, non, mais c'est dur. Donc, un truc quand même beaucoup plus léger, je sais pas si tu as vu, si tu es intéressé, Harry Potter, enfin, Harry Pokémon Go Potter est sorti, ça y est, Wizard Unite. Donc voilà, c'est un jeu qui apparemment reprend le principe de Pokémon Go, c'est aussi de Niantic, ça a l'air d'avoir son petit succès pour le moment. Ça vient de sortir, donc c'est sorti d'abord le 21 en Angleterre et aux États-Unis, c'est sorti d'ores et déjà pour tout le monde maintenant, donc voilà, si vous êtes intéressé, allez-y, ruez-vous dessus, moi je le ferai pas, parce que globalement, Harry Potter, je m'en cogne. Tu es fan d'Harry Potter, peut-être?
Non, jamais lu, jamais vu, jamais compris l'enthousiasme.
Parfait, on est deux à s'en cogner, écoute, ça nous fait ça de moins à
Voilà,
faire.
sujet suivant.
Ça nous fait ça de moins à faire, c'est déjà bien, ça nous économise un peu de temps. On en a bien besoin. Alors, sinon, Google, parce que Google a des gros projets, on dit toujours que les géants de la tech gentrifient les quartiers où ils enfin, les villes où ils s'implantent, et donc les quartiers deviennent extrêmement chers, etc., etc. Et donc Google donc envisage sur plusieurs années, sur quand même 10 ans, d'investir 1 milliard de dollars dans la région de San Francisco pour construire plus de 20 000 habitations, dont 5 000 seraient des habitations à loyer modéré, enfin des habitations donc abordables, on va dire. Et c'est quand même probablement une bonne initiative. Alors évidemment, il faudrait voir les détails. Pour l'instant, on ne connaît pas vraiment les détails, mais il y a eu donc cette annonce d'investissement massif dans le secteur de San Francisco. Et il y a aussi d'ailleurs des investissements massifs, et ça c'est plutôt vers chez toi, Pod, c'est vers Toronto, donc au Canada. Il y a Sidewalk Labs, qui est une filière d'Alphabet, qui veut donc réhabiliter le bord de mer donc de Toronto avec une espèce de smart city extrêmement futuriste, donc une smart city où il y aurait enfin tout serait basé sur les données. Donc globalement tout le monde serait suivi tout le temps, les données seraient générées par un petit peu toutes les infrastructures, et tout ça permettrait d'optimiser la consommation énergétique, la circulation, etc., etc. Bon, comme d'habitude, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on est en plein délire orwellien, ou est-ce qu'au contraire on est dans la ville du futur?
Alors, je vais corriger des petites choses, alors, parce que le bord de mer à Toronto, ça va être difficile. On est
Oui, non, le
au
waterfront,
bord,
oui, pardon.
voilà, on est au bord des Grands Lacs. C'est un projet qui est en cours depuis déjà quelques temps maintenant et qui fait couler pas mal d'encre. Ce que l'objectif n'est pas tellement normalement, hein, en tout cas, de traquer tout le monde. C'est de traquer tout le monde sur un quartier pour pouvoir, à titre d'étude, pour pouvoir créer des infrastructures ou autres, enfin, en tout cas changer de paradigme dans la ville à partir de ces données-là, mais ensuite de ne plus jamais rien récolter. En tout cas, c'est voilà, l'objectif, c'est de traquer pendant l'expérimentation. Cela étant, il y a un paquet de questions qui se posent, il y a beaucoup de détracteurs, en particulier ce qui fait jaser chez nous, eh bien, c'est le fait que les données ne sont pas partagées avec la ville, ni avec la province, ni encore moins avec le gouvernement fédéral, que les gens n'ont pas a priori particulièrement signé de consentement de quelque façon que ce soit pour participer à l'expérimentation, que que le contrat qui a été attribué à Sidewalk Labs n'a a priori pas été fait dans le cadre d'un appel d'offres. En tout cas, voilà, il y a un certain nombre de choses qui font que le projet aujourd'hui, il a pas bonne presse. Cela étant, je dois faire part d'un biais quand même. Je lis mes actus du Canada en français et le traitement est rarement le même que les actus de ce qu'on appelle le reste du Canada, le ROC. Et ça se peut que chez nous, ça a plutôt mauvaise presse, mais que ça ne soit pas nécessairement le cas auprès des concernés, hein, à savoir la population à Toronto. Mais voilà, il y a quand même des enjeux et des choses qui sont discutées.
Oui, effectivement. Donc, tu fais bien de me corriger. Ouais, j'avais lu Waterfront de Toronto et je l'ai malheureusement traduit par Frontier.
Bah, après, c'est vrai que c'est énorme. Hein,
c'est énorme, voilà. C'est vrai que ça y ressemble, mais c'est quand même pas tout à fait ça. Tu as complètement raison. Et donc, oui, cette histoire, pourquoi pas. Enfin, moi, si c'est une expérimentation, très honnêtement, je vois pas plus forcément le problème que ça. Après, évidemment, le problème de financement, de contrat, tout ça, c'est des choses dont on est assez loin ici, je dois te dire. Mais enfin, moi, j'ai lu pour ma part des articles en anglais qui étaient sceptiques aussi, on va dire. Mais bon, après, je sais pas exactement ce que ça représente. Qu'est-ce qu'on a vu comme petite news aussi ? On a vu que. Alors, voilà, on a vu. Canonical, qui finalement voulait arrêter de supporter les processeurs 32 bits, et qui s'est pris une volée de bois vert de la part particulièrement des joueurs. Il y a même Steam, Valve, donc, qui a annoncé que Steam ne supporterait plus la prochaine version de Ubuntu s'il le faisait. Et du coup, ils ont finalement décidé de mettre le 32 bits sous respirateur, et globalement, librairies, disons très spécifiques, seront toujours dans les packages Ubuntu de version 19.10 et 20.04. Donc oui, vous pourrez toujours, encore quelques temps, jouer en 32 bits, utiliser des applications de 32 bits sous Linux, mais bon, apparemment, c'est vrai que ça commence à devenir, à sentir un petit peu le sapin, quoi, hein, pour la vénérable architecture 386 qui était jusqu'à présent toujours supportée par Linux. Ça pourrait ne pas durer non plus éternellement. Un petit follow-up. Bon, alors, on avait parlé des cyberattaques entre l'Iran et les États-Unis la dernière fois. Un petit peu, enfin, en tous les cas, il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Bon, pour la faire très très rapidement, une attaque sur des pétroliers, puis un drone qui s'est fait descendre, et donc du coup, une espèce de contre-attaque dans le cyberespace qui a eu lieu, puisque les Américains ont attaqué, donc cyber-attaqué, fait une cyberattaque contre l'Iran. Ils ont essayé d'attaquer un command and control center, donc c'est-à-dire un centre de contrôle pour justement des malwares ou des logiciels en Iran, et aussi un centre de contrôle de missiles. Bon, ils étaient persuadés de l'avoir mis hors d'état de nuire. Or, l'Iran évidemment a dit que non, pas du tout, ils s'avaient complètement raté. Par contre, le régime iranien, lui, essaie de contre-attaquer par ce qu'on appelle des wipers, c'est-à-dire des malwares qui détruisent tout sur leur passage, enfin qui détruisent toutes les données sur leur passage. C'est donc en fait, et on n'a pas encore de guerre ouverte, et Dieu merci, entre l'Iran et les États-Unis. Néanmoins, apparemment, la cyberguerre fait déjà rage dans le cyberespace, donc on espère que ça en reste là. Je ne sais pas si tu as vu passer ça, c'est assez
effrayant. Et en même temps, tu te demandes quand même, est-ce qu'ils arrivent vraiment à faire des trucs? Parce que le fait qu'ils ne détaillent pas spécifiquement ce qu'ils ont fait, tu as l'impression que soit ils ont échoué totalement, soit c'est vraiment grave. Genre, c'est vraiment le truc majestueux. Genre, on a tout wipé, puis la victime, elle est tellement en PLS qu'elle ne va rien dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a quand même pas le juste milieu dans mon esprit pour l'absence de détails.
Ouais, oui, enfin bon, je sais pas, c'est quand même des choses, des trucs militaires, tu vois, ça m'aurait étonné qu'on ait trop de détails aussi. Mais ça peut aussi juste cacher une espèce d'inefficacité complète des deux côtés, hein, si ça se trouve. Ils s'attaquent mutuellement, mais aucune attaque ne porte, tu sais, c'est tout à fait possible aussi. Je sais pas du tout. Enfin bon, on reste aux États-Unis. Et oui, on a beaucoup parlé aux États-Unis de cette nouvelle quête de la Lune, voire de Mars, hein, des trucs assez pharaoniques que Trump veut mener à bien, le projet Artemis, etc., etc. Et puis il y a quand même un sujet, c'est de savoir si les Américains eux-mêmes sont très intéressés par l'espace, etc. Et donc il y a un nouveau, tout dernièrement, il y a un sondage qui a porté sur 1137 Américains et qui leur ont posé des questions, de savoir ce qui était très important ou extrêmement important concernant l'espace pour eux. Et étrangement, en réalité, il n'y a qu'un Américain sur quatre qui pense qu'envoyer des humains sur la Lune et sur Mars est très ou extrêmement important. En fait, ils sont beaucoup plus, enfin, ils pensent que c'est beaucoup plus important d'essayer de monitorer les astéroïdes qui pourraient nous tomber sur la gueule, ou bien d'envoyer des robots. Un sur deux pense que c'est mieux d'envoyer des robots pour explorer l'espace et les planètes. Par contre, retourner sur la Lune, c'est quand même 23%. Bon, voilà, et même mieux, mettre une présence permanente sur une autre planète, c'est que 21%. Donc il semblerait que la conquête spatiale, enfin, en tout cas la conquête spatiale à la Trump, soit pas réellement un truc hyper important pour l'Américain moyen. C'est peut-être un peu normal, étant donné que voilà, il n'y a pas forcément des résultats tout de suite, voire pas forcément de résultats du tout dans la vie quotidienne des gens. Donc c'est beaucoup d'argent pour on ne sait pas exactement quoi. C'est des chiffres qui t'étonnent, toi?
Ben moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils aient pas posé la question de qu'est-ce qu'ils pensent de la Space Force, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, c'est le premier truc que
C'est pas
j'aurais
pour pas
demandé.
avoir de pas avoir d'ennui avec le pouvoir en place, je sais pas.
Oui, bah, j'aurais quand même pensé les Américains un peu plus ambitieux, mais comme tu l'as dit, hein, c'est assez pragmatique.
Oui, c'est très pragmatique. C'est vrai que pourtant, c'est des. Bon, on aurait pensé effectivement que cette espèce d'attrait de l'aventure, peut-être. Mais non, ils sont peut-être un petit peu plus terre à terre, finalement, qu'on l'aurait cru. Alors, sinon, bon, évidemment, on parle toujours des trucs un petit peu orwelliens. Je crois que j'ai déjà prononcé le mot une ou deux fois cette fois-ci. Et là, on est bien dedans, puisque il y en a des universitaires, hein, des gens très très intelligents, qui se sont mis en tête d'améliorer l'évaluation de la productivité dans les entreprises. Et pour ça, ils prennent les grands moyens, c'est-à-dire qu'ils vont te monitorer avec tout ce qui est possible, c'est-à-dire ton téléphone mobile, mais aussi un Fitbit ou assimilé. Et peut-être même d'autres capteurs, et tout ce qui est possible pour justement suivre tes habitudes, les analyser dans le cloud avec des algorithmes de deep learning, parce que sinon c'est pas marrant, et en déduire globalement si tu es un employé efficace, un employé modèle, ou si tu es un gros tire-au-flanc, voilà, et pour pouvoir évidemment prendre des mesures si nécessaire. Donc c'est quelque chose de particulièrement, je trouve, angoissant, parce que c'est des moyens qui sont assez simples pour fliquer les employés minute par minute, en fait, au cours de leur journée. Là, orwellien, je crois que c'est vraiment le mot, c'est pour moi extrêmement... Enfin, on s'émeuvait des caméras qui regardaient les élèves pendant toute la durée d'un cours. On n'est pas loin de ça, mais pour les employés, je veux dire, voilà quoi, continuellement. Donc moi, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve
Ben,
ça
surtout qu'en
terrifiant.
plus, je ne suis pas certain que tu obtiennes des informations qui soient si pertinentes que ça, relativement au niveau de qualité ou même de quantité du travail. Hein. Enfin, je veux dire, moi, déjà, bon, j'en porte pas des montres, mais si j'en portais une, je la retirerais pour taper au clavier. Enfin, puis mes déplacements ont zéro rapport avec la quantité de travail que je fais. Enfin, je suis très curieux des stats qui peuvent sortir de là et de à quel point l'entreprise peut vraiment estimer ce que je fous. Mais et puis bon, effectivement, on s'entend, hein, s'ils veulent savoir ce que je fous, ils ont juste à regarder ce que je livre. Hein.
Oui, voilà, ben, je pense que c'est aussi ça le truc, c'est que plutôt que de te monitorer minute par minute, c'est peut-être je sais pas, le résultat qui compte, mais bon, bref. C'est voilà, le management 2.0 me terrifie un petit peu. Autre truc terrifiant, et puis régulier aussi, hein, puisqu'on pourrait faire peut-être même le deepfake de la semaine, comme on fait le SFS, on pourrait faire le DFS, parce que cette fois-ci c'est un deepfake, mais un deepfake qui chante. Alors oui, ben oui, ils s'amusent comme des petits fous. Les spécialistes de l'intelligence artificielle s'amusent comme des petits fous avec les photos d'Albert Einstein ou de Raspoutine, puisqu'ils ont réussi à entraîner un réseau qui est capable étant donné une photo et une chanson, de faire chanter la dite photo, la chanson. Bon, ou éventuellement de faire parler juste la photo avec un fichier audio. C'est ainsi qu'on voit Albert Einstein qui parle, ou qu'on voit Raspoutine chanter le classique de Beyoncé, Hello. Bon, honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt cocasse et ça m'a beaucoup amusé. Donc, je vous encourage à aller voir Raspoutine qui chante du Beyoncé parce que vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le clic. Alors, après ça, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit tunnel hardware parce qu'il y a des petites news hardware comme ça qu'on ne peut pas vraiment mettre sur le compte du MWC Shanghai, mais qui sont quand même assez intéressants. Tu m'arrêtes quand tu veux, bien sûr, Paul. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc, il y a des annonces intéressantes de celle de Nvidia. Donc, c'est lui, il est, par contre, il était au Supercomputing Conference de Francfort et il a annoncé qu'il allait collaborer avec ARM pour faire des super machines basées sur les architectures ARM qui bénéficieraient de la pile matérielle Nvidia, dont les accélérateurs, les réseaux, etc. Parce qu'évidemment, il y a déjà des super ordinateurs Intel et Nvidia, il y en aura des AMD plus Nvidia. Mais du coup, sous peu, bientôt, il y aura peut-être des centres de calcul ARM avec qui c'est peut-être des performances énergétiques encore meilleures. Donc toujours dans la collaboration, dans les collaborations surprise, on va dire, il y a AMD et Samsung qui vont collaborer sur des puces graphiques. Voilà, la voie la voie s'ouvre à des Exynos qui seraient équipés en Radeon en 2022, donc une Radeon dans ton téléphone peut-être. En fait, je trouve que c'est un retour amusant parce qu'il ne faut pas oublier que les Adreno de Qualcomm, elles sont basées sur d'anciennes générations de Radeon. Parce qu'Adreno, en fait, c'est un
anagramme de Radeon. Ok.
Et ouais, c'est pour ça que ça s'appelle Radeon. C'était à l'époque, Qualcomm avait racheté la technologie à ATI. Donc ce serait un retour assez rigolo que les Exynos en face de Qualcomm aient aussi des Radeon. Peut-être que dans ton PC, si tu es assez rapide, tu auras du PCI Express 4. Le PCI Express 5 n'est pas encore sorti, mais ça n'empêche pas le PCI Express 6 d'être déjà annoncé pour 2021. Voilà, donc ce sera un slot PCI Express 6 en 16 fois. Il va monter quand même à 128 gigaoctets seconde. Donc ça fait deux fois le PCI 5 et donc forcément 4 fois le PCI Express 4. Et c'est une bande passante qui est permise par un nouveau truc qui s'appelle le protocole PAM4. Et le PAM4, en fait, c'est tout con, c'est que globalement, quand tu fais passer des informations binaires, tu as deux états électriques, un 0 ou un. Le PAM4, lui, va en considérer 4, et donc évidemment, ça permettra de passer 2 bits à la fois. Donc sans changer la fréquence, tu pourras doubler, avec ces 4 états, tu pourras doubler la bande passante. Par contre, bien entendu, le signal, il faudra le mesurer de manière plus précise, donc le signal sera plus fragile, il faudra utiliser des codes correcteurs d'erreur, et donc ce sera un petit peu plus cher, forcément. Mais bon, voilà, le PCI SIG s'évertue à doubler tous les 3 ans la bande passante de son PCI Express. Et bon, vu les besoins gargantuesques des cartes graphiques et des accélérateurs neuronaux modernes, c'est bien compréhensible. Je sais pas si tu as quoi que ce soit à dire, tu peux...
Ça fait tellement longtemps que j'ai pas monté une machine que...
Ah, oui, tu sais, moi non, mais moi c'est vrai que c'est un peu pareil, c'est certain. Dernier point donc sur lequel on revient, puisqu'on en a parlé et longuement aussi, et si j'ose dire, c'est une bonne nouvelle, mais quand même tout ça pour ça, c'est le Porngxit anglais, qui finalement n'aura pas lieu. Mais oui, parce que...
Surprise.
Tu dis ça, mais moi tu sais que j'y croyais, moi je suis trop naïf en fait. J'avais parlé donc plusieurs fois de cette mesure qu'avait pris le gouvernement anglais pour donc interdire le port de la pornographie. Alors interdire la pornographie au moins de 18 ans, ça forcément c'est déjà fait, mais effectivement pour y accéder il fallait s'authentifier comme étant donc majeur, et ce que ça requérait une authentification systématique en ligne avec un site qui aurait autorité pour ça, et ce site tout simplement HID qui HID qui aurait été donc propulsé par MindGeek, qui à quel appartient Pornhub, etc. Enfin, un petit peu tous les sites pornographiques. Et donc ça posait un grand nombre de problèmes qu'on va certainement pas relister ici. Et étrangement, donc l'introduction de HID a été différée, et finalement ça devait se passer le 15 juillet. Et en fait, il y a un certain nombre de sources qui ont dit à Sky News, donc une chaîne anglaise, hein, que finalement, ça serait différé de manière indéfinie. Voilà. Parce que globalement, on ne sait pas quoi foutre, ça ne marche pas, et ça va poser plus de problèmes que ça va en résoudre. Tout ça, voilà, ça fait quand même beaucoup de bruit pour rien, et je suis quand même un petit peu déçu de ne pas avoir eu mon Porngxit sur lequel j'aurais pu commenter ici même.
Mais surtout qu'en plus, contrairement au Brexit, c'est un truc sur lequel ils ont vraiment travaillé. Hein.
Ah oui, oui, non, mais ils ont fait ça sérieusement. C'est pour ça que j'y croyais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, si tu as rien à rajouter là-dessus, Pod ? Est-ce qu'on passe au bonus ?
Je pense qu'on est prêt pour les bonus.
Un bonus, alors tu as un bonus, tu as un coup de cœur, un coup de gueule, quelque chose qui doit sortir, vas-y, lâche-toi.
Je dis que je suis prêt pour les bonus, mais... J'en ai évidemment pas. Je l'ai quand même évoqué un peu plus tôt dans l'émission, la fuite de données bancaires qui a frappé 2,4 millions de Québécois sur les 8 qui existent sur Terre. Je suis concerné. J'ai vu différentes réactions dans la presse que j'imagine la plupart de nos auditeurs jamais vu passer. Il y a des réactions ouais, que j'ai du mal à comprendre. Donc le contexte, hein, je l'ai donné, hein, c'est un employé qui a décidé de ou qui s'est probablement fait approcher, hein, de vendre les données auxquelles il avait accès, sachant que travaillant dans l'infra de la banque, il avait accès à pas mal de choses. Il s'est fait arrêter quand même assez vite. Pas suffisamment vite pour que les données ne soient pas sorties, mais quand même très vite. La banque a communiqué de façon assez transparente, très vite là aussi, a offert une assurance en cas de fraude bancaire pour les 5 prochaines années à venir, etc. Je ne sais pas si 5 ce sera suffisant, peut-être pas, mais en tout cas pour la première réponse, d'après moi, c'est la bonne. Mais il y a quand même des gens qui sont pas contents, qui pensent que ça aurait dû être crypté, mais c'est des données avec lesquelles les gens travaillent en fait. C'est pas tes photos iCloud là. Le guichetier, il a vraiment besoin d'accéder à ton compte ou ce genre de choses. Il y a des gens qui ont déposé une class action, mais il n'y a pas de préjudice, personne n'a perdu d'argent, donc ça n'a pas de possibilité de dès le bout. Et bon, voilà, c'est un espèce de semi coup de gueule, d'abord parce que fait chier, les attaques, les inside jobs là, c'est vraiment c'est le truc le plus difficile à contrer là pour une équipe de
Ouais.
sécurité informatique. Et
Le
puis
social engineering, c'est même
ah ouais,
impossible en fait comme ça.
c'est terrible. Et puis bah côté réception du public, bah ouais, je suis un peu déçu. Moi, je trouve que la banque a fait exactement ce qu'elle devait faire dans les circonstances qui étaient données, et je trouve que c'est bien parce que ça n'aurait pas été le cas de beaucoup d'autres boîtes. D'ailleurs, ça n'a pas été le cas de beaucoup d'autres boîtes par le passé, hein, lorsqu'il y a eu des fuites de données comme ça. Voilà, c'est un espèce de semi-coup de gueule.
Non, non, mais écoute, je comprends. Déjà, tes données ont fuité, donc tu as le droit
D'être
de
pas
faire un coup de gueule.
content, ben
Exactement. Et puis bon, bah effectivement, des fois, c'est le risque zéro n'existe pas, quoi. Même des fois, même si tu fais les trucs bien, bah, tu peux toujours avoir des problèmes quand même. C'est certain. Quant à moi, la semaine dernière, je vous avais aussi un site pour streamer une distribution Linux. C'était marrant, ou pas si marrant en fait, c'était pas forcément marrant pour tout le monde. Aujourd'hui, je continue avec des logiciels dans le navigateur, mais cette fois avec des jeux classiques. Voilà, donc c'est le playclassic.games qui propose des jeux 16 bits, hein, globalement, qui tournent directement dans la fenêtre du navigateur. Donc tu peux jouer à Warcraft 2 ou à Theme Hospital sans rien télécharger. C'est possible, hein, parce que les émulateurs tournent en ligne dans une version de DOSBox qui est donc passée à la moulinette de Emscripten. C'est une sorte de compilateur qui permet de faire du code C++, de passer du code C++ en WebAssembly directement. Donc tu as des performances qui sont quasi natives sur l'émulateur, qui utilise en fait le navigateur comme une sorte de machine virtuelle. Et donc c'est grâce à ce truc qu'on peut avoir par exemple l'Unreal Engine sur Firefox, ce qui est quand même assez fou. Et donc pour les jeux, bah, globalement c'est de l'abandonware. Donc en gros, si personne ne se plaint, bah, ça reste en ligne. Donc peut-être qu'il faut se dépêcher, donc dépêchez-vous d'aller voir playclassic.games. J'espère que tu as des jeux qui pourront t'intéresser. Je sais pas si tu veux te faire une partie de Doom pour te passer les nerfs, c'est idéal.
Alors, bon, moi j'ai un certain nombre de jeux là,
Qui
qui m'ont
t'intéresse?
occupé des nuits entières là, et que je serais très content de pouvoir jouer. Je sais pas si d'ailleurs t'avais vu passer une nouvelle qu'il y avait un studio, un gros studio, je me demande si c'est pas Eidos, qui voulait justement comment dire, mettre
Ces vieux
ouvrir
jeux
ses
en...
ouais exactement, et puis
Ouais.
il les trouvait pas tous, je trouvais que ça faisait écho à une vieille émission où on était justement assez d'accord que l'abandonware, ça devrait continuer d'exister parce que personne ne fait le devoir d'archivage que la
Ouais,
communauté des joueurs
complètement.
fait.
Complètement, il y a une vocation patrimoniale, si tu veux, comme ça, aux gens qui gardent les ROM, les images de disques, ce genre de trucs. Et effectivement, bah oui, si les gens ne les font pas eux-mêmes, bah, que si personne ne le fait, bah, le truc est perdu à jamais, quoi. Donc bon, voilà, c'était une émission où on avait parlé de ça, parce que Nintendo faisait la chasse justement à ces ROM et faisait fermer des sites de ROM entiers, y compris donc environ aussi les ROM qui ne leur appartenaient pas. Et donc oui, ça m'avait un petit peu chagriné à l'époque, je te le cache pas. Tout à fait. Donc écoute, voilà, en tout cas, si tu as une envie de Civilization 2, désormais, c'est bon, c'est désormais possible. Et là, ben, je pense qu'on peut conclure cet épisode de Tech Café. Hein, donc forcément, merci beaucoup de l'avoir écouté à vous tous. Un grand merci à toi, Pierre-Olivier, d'avoir participé. Et donc d'ailleurs, si on veut te retrouver pour de plus amples échanges, comment est-ce qu'on peut faire ça?
Eh bien, on rejoint le groupe Tech Café sur Telegram. C'est encore la façon la plus simple et rapide et conviviale de me joindre, mais aussi de rejoindre toute une communauté d'auditeurs qui partagent les dernières actus et en débattent avec nous. Donc c'est le fun, rejoignez-nous.
Absolument, absolument. Quant à moi, je suis Guillaume Poggespala. On me retrouvera sur Telegram aussi, mais surtout dans un prochain épisode de Tech Café. À très bientôt à tous. À ciao, bonsoir.
Ciao. Oh.